Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 6h56 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à tous. Très bonne nouvelle, c'est vendredi. Voilà, déjà, rien que ça, c'est une excellente nouvelle. Nous sommes donc le vendredi 4 septembre. C'est bientôt le week-end et on est ensemble jusqu'à 9h. Vous le savez, tous les matins, l'historien Arthur Chevalier, l'économiste Emmanuel Le Chypre.
Bonjour.
Tout chic tous les deux.
On a fait un concours. C'est une décision commune.
Ah,
voilà. C'était une sorte de pari. On s'est dit aujourd'hui cravate tout le monde. Voilà.
Cravate. Ah, voilà.
C'est pour vous aussi, Apolline.
On a décidé d'être élégant pour nos téléspectateurs.
Ah,
exactement.
Vous faites des petits conciliabules comme ça tous les deux.
C'est comme ça qu'on progresse esthétiquement.
Ah oui. Il y a un grand progrès esthétique.
On fait tout ce qu'on peut.
Allez, est-ce qu'on aura encore des légumes en conserve? Et c'est une question très sérieuse. Elle est posée par le patron de Bonduelle. Il s'exprime très rarement. Il a choisi RMC, le patron de Bonduelle, qui sera donc avec nous dans 10 minutes. À cause des canicules de l'été, de la sécheresse, la production, notamment de petits pois, de carottes, est réduite d'un quart. Et moins 15% pour les haricots verts. Dans 10 minutes, je reçois donc le patron de Bonduelle, les boîtes de conserve. Il va falloir s'adapter. Voilà ce qu'il nous dira. Il nous parlera prix aussi, parce qu'il risque d'augmenter.
C'est ça, la dernière fois qu'on avait eu des telles baisses de production, c'était en 2003. Et à l'époque, les prix avaient augmenté d'environ 20%. Donc on va voir ce qui nous attend pour les mois qui viennent.
Et puis c'est vendredi, le vendredi 7h40, la grande en interview du vendredi ce matin. Qu'est-ce que la France? Dis-moi ce que tu portes. Je ne parle pas de vos cravates, messieurs. Dis-moi ce que tu manges. Je te dirai pour qui tu votes. C'est un ouvrage passionnant. On va pouvoir vraiment plonger dans ce livre. Nous, les Français, les magasins Action, par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent aussi, le succès des magasins Action? L'accrobranche, le rapport entre l'accrobranche et le vote. Vous allez le voir, c'est assez inouï. Il y a énormément de données. On va plonger dans cette France. L'analyse et l'étude de la France, de nos habitudes, de nos façons de faire. Les auteurs seront avec nous à 7h40.
On va y plonger, d'autant plus que la France est le pays qui a le plus de piscines par habitant.
Vous avez appris ça en lisant ce livre. Ouais. Il dit beaucoup de nous, hein,
Arthur. Il dit beaucoup de nous, il dit beaucoup de notre rapport à notre nostalgie. On se rend compte qu'en fait, en France, c'était toujours mieux avant, à toutes les époques.
Nous, les Français, c'est le titre de ce livre dans lequel on va se plonger donc à 7h40. Et je vous attends d'ailleurs au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler. Vous pourrez interpeller aussi les auteurs. À 8h30, mon invité, ce sera Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, le favori de la gauche pour ses élections présidentielle, candidat à l'élection présidentielle évidemment, 8h30 dans le face-à-face. Et puis on continue de vous gâter et c'est inouï, la prime de rentrée ne cesse d'augmenter. Au moment où on en se parle, la somme en jeu est de 43 125 euros, et je vais encore l'augmenter, cette somme inouïe, parce que dans chaque émission on tourne la roue et chaque jour on appelle l'un d'entre vous, et si vous connaissez le montant de la prime de rentrée, eh bien, elle est pour vous. Restez bien à l'écoute pour pouvoir jouer avec nous. 6h59, dans un instant, le journal. Excellent réveil à tous. On est ensemble jusqu'à 9h sur RMC, mais il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
L'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'été n'est pas terminé et il est pourtant déjà le plus chaud jamais enregistré. Ce n'est pas fini. Alerte canicule sur 5 départements où les records pourraient encore tomber. Plus d'1 milliard d'euros pour l'agriculture, priorité du gouvernement qui va dévoiler ses mesures d'aide pour le secteur impacté par la sécheresse. Et puis Gaël Monfils a déjà trouvé son futur job, lui qui a joué cette nuit le dernier match de sa carrière dans un grand chelem battu au deuxième tour de l'US Open.
5 départements en vigilance orange à la canicule ce midi.
Énième épisode d'un été record. On n'a jamais eu aussi chaud depuis le début des relevés en 1900, nous dit Météo France. 53 jours sous forte chaleur, du jamais vu. Pire encore, ce chiffre criant, 178. C'est le nombre de fois sur la période estivale où le seuil des 40 degrés a été dépassé. C'est deux fois plus qu'en 2003. Célestin Bougère.
Pour trouver le triste record de l'été, il faut se rendre à Prunier dans l'Indre. Nathalie est réflexologue dans son village. La température a atteint 45,2 degrés.
On s'attend plus à le voir dans le sud que chez nous. Ce record-là, on l'a eu qu'une journée, mais on était souvent au-dessus de 40 et on n'a pas vu ça. Enfin, moi, j'en ai pas souvenir. Hein. Ça brûle, l'air brûle.
Sainte en Charente-Maritime a battu en juin 4 fois son record de chaleur jusqu'à atteindre les 43,8 degrés.
C'était une surprise pour tous. Dès le mois de mai, on a compris que ça allait être compliqué.
Alors le maire Bruno Drapeau Macron a déjà commencé à transformer sa ville.
C'est adapté toutes nos écoles. On a mis des brasseurs d'air dans les classes avec des films sur les vitres et du blanc de Meudon sur les vitres de notre grosse grille de façade. Et ça fonctionne déjà très bien.
Et même à Strasbourg, c'est un été record. Première fois que les 40 degrés sont dépassés. En réaction, Aymeric Noël, un habitant, a créé le collectif Strasbourg au frais.
Cet été, il y a eu un peu ce déclic un peu renforcé. La colère aussi qui se rajoute à ça, en lien avec l'inaction et le sentiment d'impuissance aussi.
Objectif, peser sur les élus, les différents acteurs du scolaire, du logement, pour repenser la ville de demain. Une ville adaptée à des températures extrêmes.
Une chaleur qui persiste avec des records battus hier pour un mois de septembre. 37 degrés à Pézenas dans l'Hérault, 36 dans les Bouches-du-Rhône. Et ça va continuer aujourd'hui, notamment du côté de Toulouse. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes le correspondant RMC dans le Sud-Ouest. Et vous êtes sur place en direct ce matin sur un marché toulousain où l'on se prépare à cette nouvelle journée brûlante.
Oui, il fait chaud déjà ici à Toulouse, 18 degrés, et cet après-midi, on attend certainement le double en plein centre-ville. On est avec Loïc Garcia, qui est charcutier à Toulouse. Bonjour Loïc.
Bonjour.
C'est difficile, hein ?
Oui, on est content de démarrer de bonne heure, et cet après-midi, on va se cacher, on va se mettre à l'ombre.
C'est une habitude maintenant, elle revient systématiquement, la canicule ?
Oui, malheureusement, et puis j'ai l'impression que c'est l'été le moins chaud du reste de nos vies.
Et ça veut dire que vous prenez des dispositions particulières ?
Bien évidemment, on autorise des shorts, on autorise des t-shirts, on met la clim partout parce qu'on est obligé de vivre dans ces conditions.
Voilà, 18 degrés en ce moment, cet après-midi certainement 36 degrés, c'est un record historique du jamais vu certainement depuis le 8 septembre 1966.
La chaleur mais aussi la sécheresse qui ont mis à mal les cultures, le monde agricole attend le plan d'aide du gouvernement. On parle d'un chèque à plus d'un milliard d'euros prévu hier avant d'être repoussé de quelques jours. C'est finalement ce matin que la ministre de l'Agriculture va détailler les différentes mesures pour venir en aide à ce secteur fébrile. Certaines exploitations sont au bord du gouffre. Reportage en Isère, Vincent Chevalier.
Au soleil ou sous les serres, le même constat. Des légumes grillés par la chaleur, invendables. Cet été, Denis Ayou, maraîcher bio en Isère, a perdu une partie de sa production.
Je prends 25-30% de perte, je pense. Et puis des cultures qui sont mortes. Hein. Tout ce qui est carottes que j'ai mis au printemps, tout ce qui est betteraves, tout ce qui est salade, c'est tout brûlé. Hein.
Ces pertes ont un impact sur le moral des agriculteurs, inquiets pour l'avenir de leur profession.
C'est compliqué, ouais. Le métier d'agriculteur, on le sait. De toute façon, quelque part, on est préparé à ça. Quoi.
Lui peut être un peu rassuré, il a trouvé un repreneur. Son neveu, mais Benjamin le sait. Rien n'est gagné pour assurer la pérennité de l'entreprise.
C'est une responsabilité, ça peut vite être effrayant quand même, il faudra toujours faire au coup par coup, voir comment ça évolue, comment ça réagit.
Ces aléas climatiques extrêmes pourraient donc précipiter la fin des exploitations les plus fragiles. Thierry Pouche, chef économiste aux Chambres d'Agriculture France.
On est sur une fourchette de 35 à 40 000 exploitants qui pourraient faire faillite et donc mettre la clé sous la porte. À partir du moment où on a 360 000 agriculteurs, ça va encore poser le problème du maintien des effectifs.
Pour les syndicats agricoles, sauver l'agriculture française coûtera certainement plusieurs milliards d'euros à l'État.
Le secteur agricole, mais aussi celui de la pêche et du BTP qui vont pouvoir bénéficier de l'aide carburant accordée deux mois plus tôt aux secteurs les plus exposés par la hausse des prix du carburant. Ce n'est pas le cas des transporteurs routiers. Ils sont en colère. Le guichet pour les grands rouleurs à destination des ménages modestes sera lui prolongé d'un mois jusqu'à la fin septembre. La 7e conférence nationale du handicap ce vendredi sous l'œil attentif des associations qui appellent le gouvernement à l'action. Emmanuel Macron doit égrener à cette occasion une soixantaine de mesures visant à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Zacharias Moussaoui demande à purger la fin de sa peine en France. C'est une information que vous révèle RMC ce matin. Cela fait 20 ans que l'homme, aujourd'hui âgé de 58 ans, est détenu aux États-Unis, condamné à une peine de prison à vie, reconnu coupable, Mathias Tesson, de complicité dans la préparation des attentats du 11 septembre 2001.
Oui, l'avocat du Français dénonce 20 ans de détention ultra répressive dans une prison de haute sécurité du Colorado. Maître Romain Ruiz décrit des mesures d'isolement sans limite et une privation quasi totale de contact humain.
Ce qu'il demande, c'est à bénéficier tout simplement des droits essentiels qu'on lui refuse depuis 20 ans dans le Colorado. Si Monsieur Moussaoui revient en France, il reviendra en France pour purger la fin de sa peine dans une prison française. Il y a une responsabilité politique de la France dans la protection de nos ressortissants à l'étranger.
Reconnu complice par la justice américaine du commando du 11 septembre 2001, notamment à cause de ses liens avec Al-Qaïda, Zacharias Moussaoui dénonce aujourd'hui via son avocat une enquête biaisée et un procès à charge.
La condamnation de M. Moussaoui est teintée d'au moins 14 violations de ses droits. Zacharias Moussaoui n'aurait pas dû être condamné pour une participation aux attentats du 11 septembre 2001.
Sa mère, Aïcha El-Wafi, redoute de mourir sans revoir son fils.
Il a fait une erreur de se mêler avec ces islamistes.
Une fois par mois, j'attends toute la journée le jour où il va m'appeler. Peut-être que je ne le vois plus.
Je ne le verrai jamais. Je ne l'embrasserai jamais.
Pour que ce transfert ait lieu, il faudrait l'accord des deux pays, ce qui paraît aujourd'hui très improbable.
C'est un miracle. Ce matin, au Népal, deux ouvriers ont été extraits vivants d'un tunnel par les secours. Une semaine après la crue qui a fait près de 1300 morts, bilan toujours provisoire. C'est terminé pour Gaël, mon fils. Il a joué à 40 ans cette nuit le tout dernier match de sa carrière dans un grand chelem écarté en 3-7 au deuxième tour de l'US Open par l'Américain Larner Tien. Le Français prendra sa retraite à la fin de la saison, mais il a déjà pris les devants. Tournez vers la suite, écoutez-le.
Ouais, c'est ça que t'es. Je vais être gestionnaire de fortune dans une boîte en Suisse. Bah, je vais commencer là-bas l'année prochaine. C'est quelque chose qui me passionne, quelque chose que je fais entre guillemets depuis quand même pas mal d'années. Et j'avais fait des stages quand je pouvais. J'ai envie de rester actif, je te cache pas, je reste actif. Ma petite fille est rentrée à l'école, donc il faut un papa actif.
Une retraite encore lointaine pour Quentin Alice, mené 2-7-1 ce matin face au deuxième joueur mondial, Alexander Zverev. Et puis Lille, qui sans convaincre, arrache la victoire 1-0 à Toulouse hier soir en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. À suivre ce soir sur RMC. Lyon-Auxerre, 19h, ce sera juste avant le choc PSG-Monaco à 21h05.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h07 sur RMC. Canicule, sécheresse, effondrement de la production. Allons-nous avoir des légumes en conserve ou surgelés dans nos régions toute l'année et à quel prix? Bonjour Xavier Inkovic.
Bonjour Pauline.
Vous êtes le patron de Bon Duel. Merci d'avoir choisi RMC pour vous exprimer ce matin. Vous vous exprimez très rarement. Bon Duel, c'est la marque que tous les Français connaissent. Elle est extrêmement présente dans nos quotidiens, dans nos placards, dans nos congélateurs. Et vous alertez ce matin, vous alertez parce que cette crise agricole, elle a des conséquences, elle va durer et il va falloir tenir bon. Ça veut dire quoi tenir bon? Vous nous le dites dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et on en a tous partout, dans nos placards et dans nos congélateurs. Casse-grain, Bon Duel. Vous en êtes le patron, Xavier Inkovic, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans notre studio ce matin pour répondre à nos questions et pour alerter surtout ce matin. Parce que les boîtes de conserve, les petits pois, les haricots verts, il y a un véritable risque. Moins 15 à moins 50% de baisse de production après l'été de canicule et de sécheresse. Vous alertez, la situation est véritablement critique?
La situation est très complexe, très compliquée pour nos partenaires agriculteurs qui ont dû subir les fortes chaleurs, la sécheresse et puis ces pics qu'on n'a pas expérimentés en France depuis... Je ne sais pas depuis quand.
On ne compte plus.
Quand vous entendez des chaleurs à 41 degrés en Bretagne, c'est...
La Bretagne qui est l'un des départements, de l'une des régions où l'on produit habituellement le plus.
Oui, tout à fait. En nord de la France, nord Picardie, dans le sud-ouest, l'ensemble de nos partenaires agricoles ont été touchés avec des baisses de production. Nous, on est autour des 20% pour certains légumes, 15% pour d'autres. Donc ça varie selon les légumes, selon les bassins de production, puisqu'on ne va pas récolter les légumes verts au même endroit que récolter le maïs doux, par exemple. Le maïs doux, on est beaucoup plus dans le sud-ouest. Les légumineuses, dans le sud-ouest également. Et donc, ces fortes chaleurs ont complètement perturbé nos
votre écosystème.
Exactement. Et aujourd'hui, il faut les aider. Il faut être là pour eux. Alors nous, on est là depuis 173 ans avec eux. On a des contrats de partenariat qui partagent les bons moments comme les mauvais. Mais on passera pas sans une augmentation des prix pour sauvegarder nos filières. Et alors je vous rassure, parce que quand on parle de légumes, on parle de produits qui sont extra accessibles à tous, et donc on parle de centimes d'augmentation.
Mais c'est très intéressant parce qu'au fond vous dites la même chose qu'hier le patron de la FNSEA, qui était mon invité dans le face-à-face.
D'accord.
Et qui a dit, il va falloir accepter une petite inflation sur l'alimentaire.
Exactement. Parce que n'oublions pas qu'on est aussi dans une situation où on a des coûts qui augmentent en parallèle de la sécheresse. On a l'impact des coûts, des augmentations des coûts.
Mais ça veut dire quoi? Vous êtes en train de nous préparer, vous êtes en train de préparer les esprits au fait qu'il faut que le prix des boîtes de conserve. Hier, le patron de la FNSEA disait que le prix du lait allait forcément mécaniquement augmenter.
Ça veut dire
que ces prix-là, il faut les augmenter. C'est une sorte d'effort collectif. Alors l'agriculture va crever?
L'agriculture et l'industrie. On a une industrie qui est en jeu. J'ai été surpris parce que j'ai reçu une question d'une amie qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'allez pas sourcer vos légumes dans d'autres pays que la France ?» Alors, il faut savoir que, et c'est très peu connu, on a une course contre la montre entre le moment où on récolte nos légumes et le moment où on va les préserver dans des contenants que sont des surgelés ou des boîtes de conserve. On les préserve parce que le goût, parce que les éléments nutritionnels, et en 3-4 heures de temps, faut que ce légume, qui est une matière vivante, le légume n'est pas un café, c'est pas du café. On fait pas le tour du monde avec un sac de légumes, on le préserve le plus rapidement possible. Et donc, cette préservation du légume...
C'est la proximité.
C'est la proximité. Donc, les sites de production, nos grandes cuisines bonduelles, elles sont au milieu des champs, proches de nos agriculteurs, et ça depuis 173 ans. Et si vous venez nous voir et visiter, vous verrez que ce légume...
On viendra avec Manu, on est prêt.
3 heures de temps, il est dans sa boîte.
Emmanuel.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les prix des produits alimentaires en eux-mêmes. Vous aussi, vous subissez la hausse de l'énergie, etc.
Exactement.
Ça veut dire, concrètement, sur la boîte de petits pois, sur la boîte de maïs, il faut s'attendre à combien d'augmentation?
En fonction de la taille de la boîte de petits pois, c'est-à-dire que par repas, vous avez 4-5 centimes. Voilà, pour un repas de légumes ou de légumineuses.
Ça va arriver quand, ça? C'est-à-dire que concrètement...
Le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a bien écouté aussi nos partenaires distributeurs et on en est ravis. Quand vous avez les responsables de la distribution qui veulent préserver cette filière française parce qu'elle est importante, elle est importante dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il faut savoir aussi que quand...
Mais les boîtes de conserve que vous vendez aujourd'hui, vous les avez mis en conserve il y a déjà un bout de temps.
Alors, là,
donc,
on
est-ce que vraiment ces 4-5 centimes, elles vont revenir dans la poche de l'agriculteur? Vous lui avez déjà acheté, ces petits pois, ces carottes, ces haricots verts?
On partage la valeur et on partage dans nos contrats...
En temps réel?
En temps réel, bien sûr. Et faut bien acheter une production à un agriculteur. Notre agriculteur n'a pas de trésorerie, faut bien le savoir.
Et il faut rappeler que beaucoup d'agriculteurs ne travaillent que pour vous.
Entre 1600 et 2000 agriculteurs en France travaillent que pour nous, vivent avec nous au quotidien. Parce que quand je dis vivent avec nous au quotidien, on a 200 agronomes qui, au plus proche, travaillent avec eux pour planter, pour récolter. Et n'oublions pas, notre agriculteur a très peu de trésorerie. Et ça, c'est important.
Donc, augmentation légère, vous le dites, mais augmentation tout de même des prix. Arrêt des promotions. Arrêt des promotions?
Non. Pourquoi arrêt des promotions? Ça dépendra de l'impact de ces récoltes. Aujourd'hui, on a une estimation. Demain, on assumera les volumes qui ont été récoltés et on sera en capacité d'adapter nos promotions ou pas. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est d'abord, avant tout, de rendre ces légumes disponibles pour nos consommateurs, pour leur santé, en priorité, et puis pour le goût, en second. Et en fonction, n'oublions pas qu'une boîte de légumes, une boîte de petits pois, pour 4-5 personnes, c'est entre 3,90 €, pour 2 personnes, c'est 1,99 €. On parle
donc,
pas.
Et donc, ça va passer, si c'est la 1,99 €, ça va passer à, 2,05 €?
Ça va prendre 5 centimes.
Mais est-ce que, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est pas uniquement conjoncturel. On a l'impression que vous dites, écoutez, là, le monde a un peu changé, va y avoir des augmentations. Est-ce que, aujourd'hui, vous pensez pas que on va changer d'air alimentaire entre guillemets, que les prix vont augmenter, qu'il va falloir se préparer psychologiquement à payer plus cher ce qu'on mange, qu'on entre dans une sorte d'air pas de pénurie, mais de limitation, d'augmentation qualitative? Est-ce qu'on change d'air alimentaire?
Je pense
là
qu'on vit dans une ère qui n'est pas prédictible. Et donc aujourd'hui, on est en situation de crise.
On n'est pas en abondance, quoi.
On n'est pas en abondance.
On est en situation de crise.
Et demain. Il n'est pas, on peut pas ne pas être optimiste sur le fait que ces crises ne vont pas se répéter fréquemment. Ouais. Et le jour où on est en abondance, il va falloir aussi gérer l'abondance, à savoir baisser nos prix comme on a su faire.
Vous serez prêt à le faire ?
Mais bien sûr. Pourquoi ne pas le faire à partir du moment où on est dans le jeu de l'offre de la demande? Aujourd'hui, il faut payer et acheter des produits à leur juste valeur en préservant nos filières. N'oublions pas quand on parle de préserver la filière, on parle de préserver la qualité des aliments.
Est-ce que vous avez des exigences environnementales et écologiques vis-à-vis de vos
agriculteurs? Alors, c'est une super question parce que grâce à l'agriculture régénératrice, à laquelle Bonduelle a été pionnier, on arrive à améliorer les rendements dans les champs et améliorer la qualité et la diminution des intrants et donc la productivité également. Donc quelque part, on a des produits plus sains et des produits de meilleure qualité avec moins d'utilisation d'eau, moins d'utilisation de phytosanitaires, et c'est très bien.
Nous sommes en crise, il faut l'assumer, il faut payer légèrement plus cher, parce que sinon c'est l'agriculture française qui disparaîtra. Merci Xavier Uncovitch d'être venu dans ce studio ce matin, directeur général de Bonduel, et vous n'hésitez pas, appelez-nous au 3216, comment est-ce que vous réagissez justement à ce que l'on commence à entendre monter après le patron de la FNSEA hier matin, après le patron de Bonduel ce matin, c'est-à-dire l'idée que on a peut-être trop voulu tirer vers le bas les prix de l'alimentation, parce que dans le même moment, bah, il y a les prix du logement qui explosent. Mais est-ce que vous avez les moyens de faire face à ces quelques centimes de plus qu'il y aura par boîte de conserve? Appelez-nous au 3216. Il est 7h20 et comme chaque matin, on remonte le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, volte-face spectaculaire, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, admet avoir changé sur la question du port du voile, et ça vous a rappelé une autre histoire.
Mais oui, une histoire qui s'est passée en 1989. La gauche s'était déchirée sur le cas de trois collégiennes qui voulaient porter leur voile en classe. C'est ce qu'on a appelé l'affaire du voile de Creil, un épisode clé pour comprendre notre rapport à la laïcité et les divisions de la gauche sur le sujet aujourd'hui.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui arrive, il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. On remonte le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, vous avez entendu les mots de Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait une erreur terrible à propos du voile islamique, dit-il. Après avoir été longtemps contre le voile islamique, il s'y est dit maintenant favorable si les femmes veulent le porter.
Chacun fait comme il veut. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un sacré revirement pour un homme de gauche qui était partisan d'une ligne très ferme sur la laïcité. Et à l'époque, il n'y allait pas de main morte. En 2010, il qualifiait le voile, je cite, de signe de soumission patriarcale. En 2017, le voile, pour lui, c'était un chiffon sur la tête. Et bien aujourd'hui, il assume avoir changé d'avis.
La gauche, en général, a toujours été assez mal à l'aise avec cette question du voile.
Oui, et pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Tout a commencé en 1989 dans un collège de la ville de Creil, dans l'Oise. Un matin, pendant une rentrée scolaire, trois collégiennes arrivent avec un voile. Elles refusent de le retirer, donc évidemment, on ne les laisse pas entrer en classe. Le principal de l'établissement a justifié sa décision au nom de la laïcité. C'était le début d'une polémique qui va embraser la France. À l'époque, la France, elle est de gauche. Et le ministre de l'Éducation nationale, eh bien, c'est le socialiste Lionel Jospin.
Et forcément, tout le monde attend qu'il prenne position.
Absolument. Sauf que Jospin va dire tout et son contraire. D'un côté, il rappelle l'importance de la laïcité à l'école, mais de l'autre, il déclare que l'école est faite pour accueillir les enfants, pas pour les exclure. Bref, personne n'y comprend rien, c'est le flou total. En réalité, Jospin a botté en touche.
Et tout le monde s'en mêle.
Y compris Danielle Mitterrand, la femme du président de l'époque, hein, François Mitterrand, de gauche lui aussi. Danielle Mitterrand demande que les jeunes filles soient réintégrées et qu'on respecte leurs traditions. Finalement, c'est le Conseil d'État qui va trancher. La laïcité à l'école est laissée à l'appréciation des professeurs. Donc en gros, ils doivent se débrouiller au cas par cas et surtout, ils doivent se débrouiller seuls. C'était le début des polémiques. L'État refusait d'avoir une position claire sur ce sujet.
C'est aussi un tournant dans l'histoire de la gauche.
Mais oui, puisque la laïcité, jusque-là, c'était un grand symbole de la gauche au XXe siècle. L'affaire de Creil est donc un revirement. Et à gauche, la plupart des politiques avaient suivi le mouvement, hein. À l'exception notable du ministre de la Défense de l'époque, c'était Jean-Pierre Chevènement, qui avait affirmé son opposition totale aux signes religieux dans les écoles. Aujourd'hui, la fracture est encore là, hein, entre une gauche républicaine, très ferme sur la laïcité, et les tenants d'une laïcité dite ouverte, pour qui le voile est un choix. Et évidemment, pour eux, l'interdire, c'est priver les femmes d'une liberté fondamentale. Quelle vision va s'imposer à gauche pendant cette présidentielle? Eh bien, c'est toute la question.
Et déjà, quelle vision va s'imposer aussi au moment de ces primaires de la gauche?
Absolument.
Je poserai d'ailleurs la question tout à l'heure à Raphaël Glucksmann, qui sera mon invité dans le face-à-face. Merci Arthur. Tous les jours, les chroniques d'Arthur Chevalier et à tout moment en podcast sur l'application RMC. Il est 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud, je le dirai. Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, c'est Raphaël Glucksmann, candidat à l'élection présidentielle et à la primaire de la gauche.
Oui, vous entendez, les fans sont déjà là. J'ai eu du mal à traverser pour venir ici. Une horde de fans hystériques qui a envie d'apercevoir le favori socialiste. On dirait qu'on reçoit Ariana Grande. Alors finalement, j'ai réussi à me faufiler jusqu'à la porte. J'ai salué la sécurité. Et j'ai salué Raphaël Glucksmann aussi, d'ailleurs, que les vigiles n'avaient pas reconnu, qui était là. Mais laissez-moi rentrer, je suis candidat à la présidentielle. Ouais, bien sûr, et vous êtes le 13e cette semaine à nous dire ça. Hier encore, on a eu Natacha Polony, Jérôme Guedj, Francis Lalanne et Xavier Bertrand, ils nous ont dit le même truc. Ça suffit maintenant. Bon, finalement, Je lui ai mis un coup de badge, j'ai dit, il est avec moi, c'est le sujet de ma chronique, il sera chez Apolline à 8h30, parfait, donc vous l'aurez, voilà, vous l'aurez,
okay, merci Arnaud.
J'ai sauvé la situation.
Merci Arnaud.
Alors son actu, c'est la primaire du Parti Socialiste, dans laquelle on retrouve Olivier Faure, Philippe Brun, Jérôme Guedj et Raphaël Glucksmann. Je vous propose un sondage, qui est le moins charismatique des quatre? C'est pas facile, hein? C'est pas évident. Aux États-Unis, ils ont les quatre fantastiques. Nous, on a les quatre bofs. Tu m'étonnes que Ségolène Royal, quand elle a vu le tableau, elle se soit dit, à l'époque, j'avais plié Fabius et DSK. Franchement, Philippe Brun, Olivier Faure, même à mon âge, c'est prenable. Raphaël Glucksmann a été victime d'ingérence russe. C'est marrant hein, que les Russes essayent de truquer les élections françaises. Nous, on n'essaye pas de truquer les élections en Russie. On fait pas ça. Bon, elles sont déjà truquées, les élections en Russie. Donc, ok, j'ai rien dit. Mais inspirons-nous, voilà, faut qu'on truque nos élections nous-mêmes pour que les Russes nous les truquent pas. Et alors, à ce sujet, j'ai appris un truc de ouf malade. J'ai appris ça. Vous le saviez, le grand-père de Raphaël Glucksmann était un espion russe. Oui. J'ai découvert ce truc. Et son père était donc philosophe anticommuniste. Et Raphaël, lui, il combat Poutine. Putain, l'ambiance au dîner de Noël, ça devait être incroyable.
Elle est pas un peu dure, la dinde?
Ouais, moins que la vie au goulag. Et il se tape un avec un buste de Lénine, l'autre avec un disque de Lennon. Hey, c'est ouais, qui Aurel San? C'est qui Aurel San? Alors, dans cette primaire PS, il y a une sixième candidate qui a pas officiellement annoncé son retrait encore. Vous vous souvenez de qui c'est? C'est Lydie Massard. Je vous avais parlé de Lydie Massard, de l'Union démocratique bretonne.
Ah oui.
Elle est cuisinière dans un lycée professionnel à Pontivy.
D'accord.
Pour l'instant, elle s'est pas retirée. C'est la dame de la cantine. Hein.
D'accord.
La dame de la cantine, elle est candidate à la présidentielle. À la primaire, elle va regarder Glucksmann en lui faisant les gros yeux. C'est quoi ce programme? C'est pas fini, ça? Tu me termines ton programme, sinon je te resserre des nouilles. Oh non, pitié, pas du gluten. Donc, je parlais de Lydie Massard avec Manu Le Chypre, qui me disait, oh, ok, elle est socialiste, mais une bretonne qui a l'habitude de cuisiner pour 300 personnes, moi je vote pour elle. Attention, c'est peut-être l'outsider. On se renseigne sur Lydie, on se donne rendez-vous avec Raphaël Glucksmann.
Oui, renseignez-vous avant 8h30, comme ça je peux l'interroger.
Sur cette rivale.
Arnaud Demange, que l'on retrouve à 8h15, il est 7h28. Sur RMC et RMC Story, dans un instant la météo et le journal de 7h30, et juste après la grande interview du vendredi. La France, c'est quoi? C'est la question que se sont posées des journalistes, des politologues, des chercheurs. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on porte? Où est-ce qu'on habite? Dis-moi et je te dirai pour qui tu votes. Vous l'entendrez à 7h40 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le radar de la discorde sur le périphérique parisien, bien caché, mal signalé, qui flash à 30 km/h et qui remplit les poches de l'État façon oncle Picsou, dénoncent les associations d'automobilistes. Ce témoignage RMC, une victime présumée d'un tatoueur du Nord-Pas-de-Calais, accusé de viol et d'agression sexuelle par 19 femmes, des faits au sein même de son salon. Le tennis, l'US Open, fin de carrière en grand chelem pour Gaël Monfils et suite d'un beau et inattendu périple pour Arthur Géa.
C'est l'ennemi public numéro un des associations d'automobilistes en ce moment. Un radar autonome en région parisienne.
Accusé d'être une machine à cash parce qu'il est installé près d'un chantier, près à la porte de Montreuil sur le périphérique parisien, qu'il limite la vitesse à 30 km/h, qu'il n'est pas signalé et caché entre deux barrières. 40 millions d'automobilistes a fait ses calculs. Il pourrait rapporter, selon l'association, jusqu'à 750 000 euros par jour. Son délégué général, Pierre Chasseret, était l'invité du Morning RMC.
On est dans une injustice telle, on est dans un abus d'excès de vitesse tel, on est dans un positionnement tellement caché qu'il mérite d'être supprimé, purement et simplement. Alors je sais, on va me dire, attention, si c'est un radar de travaux, ça veut dire qu'il y a fondamentalement des gens qui travaillent à protéger. On a des moyens d'éviter un radar, hein. On peut neutraliser une voie, on peut aller jusque-là s'il le faut, et mettre des petites barrières béton pour faire en sorte que ceux qui travaillent soient protégés. Mais on ne fait pas ça, on ne crée pas le coffre de l'oncle Picsou posé au bord de la route.
Et côté prix des carburants, les aides de l'État aux secteurs les plus touchés sont prolongées d'un mois pour les gros rouleurs modestes, de deux mois pour ces secteurs les plus exposés, c'est-à-dire les agriculteurs, les pêcheurs et le BTP, mais donc pas pour les transporteurs. Pour Ruffini, les ristournes à la pompe, surprise et colère, Victor Joannin.
Oui, le gouvernement se justifie en expliquant que cette aide d'urgence qui coûte 60 millions d'euros par mois aux caisses publiques n'est plus justifiée car la hausse des prix du gasoil est déjà répercutée dans les contrats entre les transporteurs routiers et leurs clients. Il y a une indexation prévue dans la loi. Autrement dit, si le prix du gasoil augmente, le transporteur est mieux payé. Mais le président de l'Organisation des transporteurs routiers européens conteste.
Totale incompréhension sur cette décision. On la regrette.
Selon Alexis Giberg, la loi n'est pas assez précise et laisse trop de place à l'interprétation.
En fait, cette répercussion, elle est très compliquée à mettre en œuvre, en pratique. Pourquoi ? Parce que finalement, elle dépend de négociations commerciales entre des petites entreprises, des grands groupes. Donc, on pousse très fort depuis des années pour essayer de rendre ça plus simple, automatique et rapide. En attendant, il faut surtout pas arrêter de soutenir nos entreprises. Au contraire.
Le gouvernement a justement accepté d'améliorer ce dispositif d'indexation. Une réunion est prévue dans les prochaines semaines.
Et d'autres aides en passe d'être annoncées aujourd'hui. Le gouvernement va dévoiler à 9h son plan pour soutenir l'agriculture face à la sécheresse. Cette information que vous dévoile RMC ce matin, le condamné français des attentats du 11 septembre demande son rapatriement. Zakarias Moussaoui, proche d'Al-Qaïda, veut terminer de purger sa peine de prison à vie en France. On y reviendra dans le journal de 8h. Un témoignage exclusif, à présent celui d'une victime présumée d'un tatoueur d'Arras, accusé de viol et d'agression sexuelle par 19 plaignantes. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Alfred Orange, vous avez échangé avec l'une de ses victimes qui décrit un mode opératoire bien défini.
C'est pour se faire recouvrir un ancien tatouage que cette jeune femme, que nous appellerons Lucie, se rend chez ce tatoueur qu'elle ne connaît pas. L'homme aurait d'abord pris soin de l'isoler.
Au milieu du tatouage, il a envoyé ma cousine au magasin juste à côté pour aller chercher des boissons. Et c'est à ce moment-là qu'il en a profité pour avoir des gestes super déplacés.
Lucie dit avoir été victime d'agressions sexuelles.
Je l'ai repoussé plusieurs fois, mais forcément, il a plus de force que moi. Dans ma tête, c'était juste, je priais pour que ma cousine, elle revienne vraiment plus vite. Je me suis dit, si elle revient pas assez vite, qu'est-ce qu'il va me faire de plus ?
Le retour de sa cousine aurait finalement stoppé l'agression. En tout, 19 plaignantes décrivent des procédés similaires allant de l'attouchement sexuel au viol. Maître Marie Fichel, avocate de deux plaignantes, décrit un mode opératoire bien réglé.
Le tatouage, c'est quand même intime. On a quand même une intimité par rapport à son physique et par rapport aussi à la proximité. Et s'il sent qu'il y a une brèche et que je pense que physiologiquement, il a envie, petit à petit, il met en marche son process.
Des faits que cet homme de 55 ans conteste fermement. Sollicité par RMC, son avocat n'a pas souhaité donner suite à nos demandes.
Témoignage RMC signé Alfred Orange. Il est 7h35. Un nouveau candidat à la primaire socialiste. C'est l'ancien maire de Châteaudun, Fabien Verdier, qui s'est déclaré hier et qui se rêve en candidat des sous-préfectures. Encore faut-il qu'il obtienne les parrainages nécessaires. Ce qui n'est pas un problème pour le favori des sondages, Raphaël Glucksmann, qui en a d'autres, Cyprien Pézeril, à savoir que beaucoup au PS le trouvent apathique.
Oui, Raphaël Glucksmann, seul contre tous, ses concurrents lui reprochent d'avoir peur de la confrontation en refusant pour l'instant la tenue de 3 débats télé. On a les caméras sur nous et il est en train de mégoter, enragé un stratège du PS. D'autres ironisent aussi sur la composition de son équipe, essentiellement d'anciens artisans de la campagne d'Anne Hidalgo, et c'est moins de 2% dans les urnes. Raphaël, il est parfois déconcertant, admet un de ses récents soutiens. L'habileté politique, ce n'est pas son truc, pointe aussi un éléphant socialiste. Et cette primaire dont il voulait qu'elle soit une formalité, se transforme en obstacle dans sa course pour l'Élysée. Certes, il fait campagne en déplacement, par exemple, demain à la foire de Châlons en Champagne, et les sondages lui sont toujours favorables, mais les soutiens d'Olivier Faure, son principal concurrent, le répètent en chœur. Dans une primaire, rien ne se passe jamais comme prévu.
Et justement, Raphaël Glucksmann sera mon invité ce matin. Rendez-vous à 8h30 pour le face-à-face.
Et le tennis, avec d'abord les adieux de Gaël Monfils au tournoi du Grand Chelem, ultime défaite au plus haut niveau. C'était au deuxième tour de l'US Open cette nuit, avant sa retraite à 40 ans. La belle surprise, elle est venue d'Arthur Géa. Première qualification au troisième tour d'un grand chelem face à l'Américain Svadja. Le Français qui va devoir revoir toute son organisation.
Cure d'hôtel depuis deux semaines. Ça fait déjà deux semaines qu'on est ici avec la team. J'ai changé deux fois déjà. Le premier que j'avais réservé pour les qualifs, il était pourri. Et le deuxième était super. J'avais une suite avec mon coach dans la même chambre, avec Andy. On a dû changer parce qu'en fait, à force de prolonger, il n'y avait plus de chambre en fait. Du coup, on a changé d'hôtel. Et là, je dois me bouger parce que d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait des chambres encore. Donc, j'ai mon check-out demain. Donc. Ah, et oui. Mon avion demain aussi. Donc, il faut que je le rechange une troisième fois.
Et en foot, il y a un nouveau leader en Ligue 1 ce matin, c'est Lille. Grâce à sa victoire à l'arraché 1-0 contre Toulouse, deux matchs au programme aujourd'hui. Lyon Auxerre à 19h et le choc Paris Saint-Germain Monaco à 21h05. Ce sera à suivre sur RMC.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes, 20h15.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 15, le Caporal. L'outsider, le numéro 13, Lutèce Della, le 15 et le 13.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h38. Vous en parliez justement, Victor, dans votre journal, le radar de la Discord, la machine à cash, comme l'appellent les associations d'automobilistes. Cyril nous appelle au 3216. Cyril qui est chauffeur VTC à Bougival dans les Yvelines. Vous le prenez, j'imagine, le périph. Vous êtes tombé sur ce fameux radar?
Ah, moi j'ai eu du bol, ils étaient en train de le mettre, donc je me suis pas fait flasher.
Donc vous les avez vus en train de l'installer?
Ah non, ils venaient juste de l'installer, mais comme il était encore pas indiqué, il flashait pas encore, il a flashé le lendemain.
Il a flashé le lendemain. Et quand vous les avez vus l'installer, vous vous êtes dit, oulala, celui-là, il va en prendre plus d'un.
Je l'ai bien vu de l'autre sens. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on fout un radar à 30 km/h, là où le chantier s'arrête, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir sur la voie normale. Donc, il y a 15-20 mètres à peu près pour choper la voiture. Donc, on est sur la zone de nouveau à 50 et ils l'ont mis à 30 km/h. Et il y a des gens, encore une fois, qui savent que c'est 30 km/h, freinent pour être bien à 15 km/h et c'est hyper dangereux. Et
surtout, en fait, le danger pour vous, c'est effectivement la réaction des automobilistes.
C'est normal, ça. C'est surtout qu'en fait, on a mis un radar qui est juste là pour faire du fric. Hein. Faut dire les choses comme elles sont, quoi.
Vous redoutez beaucoup plus les voitures autonomes avec le radar embarqué?
Bah, ça servira à quoi de mettre des radars? Il y aura même plus de rentrée d'argent avec les voitures autonomes. Je comprends même pas l'intérêt de foutre des voitures autonomes, moi. Mais...
Non, mais les voitures autonomes, je veux dire les radars embarqués sur les voitures qui font que le radar est mobile. Ça c'est quand même beaucoup plus sournois.
Je sais pas comment ça marchera avec les voitures autonomes, parce que s'il y a trois panneaux sur le périph, il y a des panneaux, on sait même pas c'est lesquels, il y a 50, 70 et en même temps.
Oui, enfin, lequel?
On a plus, mais s'il doit comprendre que c'est le 30 et le 50, ça peut être un beau carnage, ouais.
Merci beaucoup, Cyril. Il est 7h40 sur RMC. Oui. C'est l'heure de vous couvrir de cadeaux, pour la fameuse prime. Vous le savez, on va la faire augmenter, cette prime. C'est mon moment roue de la fortune. La prime, elle va être augmentée d'autant que je tourne la roue. Attention, on y va, c'est parti. Attention, mesdames, messieurs. Nous sommes sur du 250 euros. On rajoute 250 euros. C'est donc une prime de 43 375 euros. Je répète ce chiffre, ne l'oubliez pas. 43 375 euros. 4, 3, 3, 7, 5. Oui, je le redis. Parce que cette somme, elle est pour vous. Les 43 375 euros, ils sont pour vous. Si lorsqu'on vous appelle, et on appelle une personne chaque jour, eh bien si vous connaissez le montant de cette prime, elle est pour vous. 43 375 euros, pour ça il faut vous inscrire. Vous avez 10 minutes, top chrono, c'est parti. Pour envoyer prime au 7-32-16, prime au 7-32-16, vous avez 10 minutes pour vous inscrire et pour gagner cette prime de rentrée, cette magnifique somme. 43 375 euros, bonne chance.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Est-ce que vous avez un air fryer? Vous buvez de l'eau en bouteille ou celle du robinet? Est-ce que vous prenez le temps de déjeuner le midi ou est-ce que vous en profitez pour faire du sport? Eh bien, selon votre réponse, on va pouvoir vous dire dans un instant pour qui vous votez. Bonjour Gérald Andrieux et Jean-Laurent Casselli. Merci d'être mes invités ce matin. La grande interview du vendredi. Vous êtes journaliste, essayiste et vous venez de publier cet extraordinaire livre. Ça s'appelle Nous les Français et ça regorge de toutes ces informations. Où est-ce qu'on fait nos courses en fonction du fait qu'on est de droite ou de gauche? Un ouvrage collectif s'adresse à un portrait aussi passionnant que très précis de notre pays. Arthur, vous l'avez lu avec passion.
Ah, moi j'ai adoré, et surtout ce que j'adore, c'est montrer la passion de la France pour la nostalgie, cette espèce de pays où c'était toujours mieux avant, quelles que soient les époques.
Vous nous le dites, vous avez aussi été passionné par ce chiffre sur les accrobranches, c'est-à-dire que s'il y a un
club d'accrobranches, moins on vote RN. C'est une statistique quand même inédite.
Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on plonge dans ce livre, Nous, les Français. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45. Je vous rappelle qu'il vous reste qu'il vous reste quelques minutes, à peine 5 minutes, pour vous inscrire. Vous envoyez prime au 732-16, prime au 732-16, et retenez bien ce montant, 43 375 euros. 43 375 euros, c'est le montant de la prime. Si vous retenez ce chiffre, il est pour vous, cette somme est pour vous. Vous avez donc encore 5 minutes, pas plus, pour envoyer prime au 732-16. Bonne chance à tous. 7h46, dis-moi quelle doudoune tu portes, je te dirai pour qui tu votes. C'est l'une des promesses de l'ouvrage que vous venez de publier, Gérald Andrieux, Jean-Laurent Casselli, bonjour à tous les deux. Ce livre, il s'appelle « Nous les Français », il vient de paraître aux éditions Robert Laffont. 220 pages de chiffres, de graphiques pour mieux connaître et mieux comprendre notre pays. Vous vouliez raconter visiblement la France différemment.
Oui, l'idée est toute bête, c'est qu'on nous raconte une France divisée, atomisée, archipélisée. Et on voulait savoir à quel point elle était, et puis aussi essayer de trouver les points de convergence, ce qui fait que nous sommes encore unis, le commun qu'il y a entre nous, les Français. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait partir effectivement des gestes quotidiens, des objets, de lieux, de choses toutes bêtes.
C'est un peu mythologie, qui était quand même un des livres phares des années 70, sauf que là, vous l'avez totalement remis à l'ordre du jour, avec notamment, tiens, les magasins Action. Les magasins Action, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui de nous? Ils s'en ouvrent un à deux chaque semaine en France. C'est aujourd'hui officiellement l'enseigne préférée des Français, et pour la quatrième année consécutive. Ça dit quoi de nous? Qui va chez Action? Pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça a développé?
Justement, un peu tout le monde va chez Action. C'est une enseigne néerlandaise qui est en France depuis une quinzaine d'années. C'est assez récent. Ça fait 4 ans, je crois, que c'est l'enseigne préférée des Français. Pourquoi? Parce que Action, comme le savent, je pense, la plupart de vos auditeurs, puisque tous les Français sont rentrés dans un Action, c'est un magasin de prix bas, de petits produits dont on a besoin, mais aussi qui nous font plaisir. Donc, c'est Action, c'est la manière dont ce qu'on appelait le hard discount il y a quelques années, en fait, permet aux Français de continuer un peu la fête consumériste, le plaisir de la consommation. Et on trouve de tout chez Action, des produits ménagers, mais aussi des pantoufles, mais aussi, j'ai vu hier, un pèse-bagage pour peser sa valise.
Beaucoup de shampoings chaque.
Ouais, il y a à la fois le nécessaire et quelque part le futile, et c'est ça qui marche dans la formule.
Alors, on a l'impression avec Action, effectivement, vous le dites, tout le monde va chez Action. Il y a plus de consommation de classe, en fait. Tout le monde fait un peu tout. Et en même temps, vous dites, on a des Français qui vivent de plus en plus dos à dos. Et vous mettez en comparaison la France urbaine, la France rurale, les propriétaires, les locataires, les diplômés, les non-diplômés, les centres-villes, les zones commerciales, la France du vélo cargo, la France de la voiture. Et qu'est-ce qui unit encore cette France-là, finalement?
Là, vous venez de lister les différents nous qui cohabitent en France. C'est pour ça qu'on en a fait le titre. Il y a une sorte de nuage de nous qui flotte au-dessus de la France. Mais on a envie d'aller plus loin. En fait, chaque personne, au cours de sa journée, va passer d'un nous à un autre.
C'est ça, ouais.
Et donc, il reste encore du lien. Et il reste encore du désir de collectif, sauf qu'il ne va plus nécessairement s'exprimer dans la politique, parce que les sujets politiques et idéologiques nous tendent, nous divisent. Mais en revanche, dans une même journée, on va cohabiter avec des gens très différents de nous, sur le plan social, économique, mais aussi sur le plan idéologique et politique, sur le plan identitaire et religieux. Et donc, en fait, on est à la fois divisés et très réunis. Et ce qui nous réunit, ça va être l'humour, ça va être le rapport à la nostalgie, le rapport au temps.
Etc. La nostalgie, c'est universel, hein, Arthur.
Mais oui, ce livre est passionnant parce qu'en fait, on se rend compte que, moi je pense, et c'est un peu ce que montre votre livre, la France divisée, c'est surtout les partis politiques qui sont divisés. Mais dans le détail, les Français, c'est des individus qui ont des passions diverses, qui font plein de choses dans leur journée. Mais en soi, ils sont pas si divisés, ils se vivent pas si divisés que ça. Et c'est ce que vous montrez. Par exemple, moi j'ai adoré cette double page sur la nostalgie. Vous montrez qu'en fait, la chose la plus communément partagée par les Français, c'est la nostalgie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la nostalgie? Ça veut dire que on aime ce qui nous a reliés par le passé, donc on aime notre histoire.
C'est les musiques sur lesquelles on a
exactement
dansé ensemble.
Absolument, c'est autant Mike Brand que Astérix, la nostalgie. Oui. Mais du coup, c'est nous-mêmes, quoi. Donc en fait, tout ça, ça nous lie. Et donc en réalité, il y a encore du commun. C'est fou, ce truc. Enfin, je veux dire,
Oui, et puis cette nostalgie, elle fait de nous un peuple très politique, parce que ça veut dire que le monde tel qu'il va aujourd'hui et le futur ne nous est pas enviable. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers le passé. Ça veut dire que nous avons en commun la volonté de changer le cours des choses. Ce qui est quand même rassurant, ça veut dire que la politique, au sens noble du terme, nous plaît, nous intéresse, la chose publique nous intéresse, mais la façon dont elle est racontée par les politiques eux-mêmes ne nous intéresse pas.
La musique, effectivement, on disait qu'il y a cette passion pour la musique du passé, et d'ailleurs, ça se voit aussi dans les chiffres des radios. Hein. La radio Nostalgie est une radio qui a un énorme succès, toujours année après année, et dans les musiques contemporaines. Gims, Vianney, ça c'est quoi? C'est deux nous différents?
Bah, c'est vrai qu'on s'amuse dans le livre à prendre des exemples tirés de la pop culture. Gims et Vianney en sont deux exemples apparemment opposés, alors que dans les cours de récré, savez-vous qu'il y avait des sondages sur les adultes, mais aussi sur les enfants et les adolescents. Non, dans les sondages, des personnalités préférées des enfants et des adolescents, Gims et Vianney remontent assez haut dans le classement.
Mais ça veut dire que pour le coup, qu'ils soient enfants de famille de droite ou de gauche, ils écoutent Gims, Vianney, qu'ils soient urbains ou à la campagne, ils écoutent Gims et Vianney.
Exactement, alors même qu'ils ont des images très différentes et quand on a l'impression qu'ils sont écoutés par des publics assez différents, on consacre aussi un article à la playlist des JO 2024. On se rappelle du moment Aya Nakamura et la garde républicaine, on se rappelle évidemment de la Marseillaise, de Céline Dion, et on se rend compte qu'avec cette playlist des JO, on mettra jamais tous les Français d'accord sur une seule chanson, que ce soit de la variété des années 60 ou la French Touch, mais cette variété crée aussi une certaine diversité.
Et Vianney, ils ont aussi travaillé ensemble, donc ils ont réconcilié en quelque sorte, comme vous le dites.
Deux Français sur trois, vous le dites, c'était la phrase de Giscard. Pour gouverner, il faut deux Français sur trois.
De VGE,
voilà, les politiques ne le font pas, Vianney et Gims le font.
Ce qu'on mange, et alors la passion du air fryer. Est-ce que vous pouvez, moi, j'avoue qu'elle m'a complètement échappé, cette passion du air fryer. Je continue à utiliser des vieilles cocottes, mais justement, dites-moi ce que ça dit de moi ou de nous.
Bah, un seul chiffre peut éclairer cette passion. En 2024, 3 ouais. millions de air fryers ont été écoulés en France. 3 millions, c'est quand même pas quelque chose d'anecdotique.
Donc on va tous y venir un jour ou l'autre, je pense. Moi non plus, j'en ai pas, mais on va.
En fait, il y avait la Startup Nation. Là, on vous décrit la Air Fryer Nation. Ouais. En fait, voilà ce qu'a réussi Macron. On est dans la nation du sang. C'est-à-dire que nous, les Français, vous parliez des mythologies de Barthes précédemment.
De Roland Barthes. Un petit livre de poche que je recommande.
Il avait listé les passions françaises des années 50. À la fin des années 50, il y avait le steak et les frites. Il y avait le lait et le vin. Et désormais, on est dans une nation où on mange moins de viande. On va pas manger gras, donc les frites sont au air fryer. Le lait, on en est venu au lait végétal. Et le vin, il faut en consommer beaucoup moins parce que, figurez-vous, ça serait pas bon pour la santé. Donc on est passé de cette nation de Barthes à cette nation de sang, du sang qui fait...
Du sang, au sens on se prive, au sens quoi
SANS, au sens où on va retirer tout ce qui pourrait être mauvais pour nous. On est dans une forme d'hygiénisme aussi à travers le air fryer.
On va peut-être vivre plus longtemps, mais on va s'amuser beaucoup moins.
Je suis assez d'accord avec vous.
Effectivement. Et en même temps, pardon, c'est vrai que dans l'air fryer, il y a aussi l'idée que les Français continuent à adorer faire la cuisine, mais ils ont beaucoup moins de temps qu'avant, notamment les femmes.
Mais ils ont de quoi dépenser, parce que le air fryer, c'est quand même un investissement.
Non, c'est pas cher.
Non.
Une trentaine d'euros pour le
air fryer de base, ouais.
Cette statistique hallucinante que vous révélez, c'est quand il y a des infrastructures de sport nature, genre accrobranche ou mur d'escalade, on vote statistiquement moins RN dans les villages de France.
Comment vous arrivez à
10% d'écart quand même. Bon. Mettez un accrobranche dans votre vous avez changé
de... En fait, c'est une question quoi de
je vais expliquer la
d'investissement dans les services.
C'est exactement ça. Je vais expliquer la méthodologie qui est un peu complexe. On a juste croisé le taux d'équipement en service, en commerce dans les villages de moins de 1000 habitants et le vote RN aux dernières européennes. Et là, en croisant ces données, on se rend compte que les équipements de tourisme type Via Ferrata, soit l'escalade, soit l'élastique mur d'escalade, ça donne un taux de vote RN 9 points en dessous. Mais ça veut juste dire que ce sont des zones touristiques, des zones riches et dynamiques, et donc ça explique pourquoi le vote RN.
Le sentiment d'être effectivement plus exclu de cela pourrait conduire aussi à un vote RN. Globalement, alors qu'on est à l'aube de cette année très politique, au fond, votre constat, c'est aussi que les politiques n'arrêtent pas de dire qu'on est au bord d'une guerre civile, d'une France extrêmement divisée. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Ah non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que tout est vrai. C'est-à-dire que les Français sont des êtres humains, ils sont des êtres ambivalents, et on l'a dit, dans une journée, on passe d'un nous à un autre, et parfois on va côtoyer un nous qui nous déplaît.
Donc on ne peut pas réduire la France à cette France d'opposition. Elle est aussi cette France de partage.
Bah, elle est les deux, effectivement, et on l'a encore vu cet été, le Tour de France, au bord des routes, on l'a vu au moment de la Coupe du Monde, on l'a même vu au moment de l'éclipse solaire, on s'est réunis pour assister au mois d'août à cette éclipse. Donc on est à la fois dans le conflit et la réunion, dans cette envie de partage et cette trouille de se taper les uns sur les autres.
Merci beaucoup à tous les deux. Je recommande la lecture de votre livre « Nous, les Français ». Il vient de paraître aux éditions Robert Laffont, Gérald Andrieux et Jean-Laurent Casselli. Merci de nous avoir dressé ce portrait de nous-mêmes, cet autoportrait des Français. Merci. Il est 7h55 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, le bonus avec Mathieu Béliard. Il revient sur la mort de Dolly Parton. La météo et le journal de 8h à 8h10. Nous serons avec le représentant d'un syndicat de policiers. Il rencontre ce matin le ministre de l'Intérieur pour parler salaire. Ils sont en colère, les policiers. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h58. Le bonus, Mathieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'étoile de Dolly Parton a été vandalisée.
Son nom rayé sur la plaque sur le Walk of Fame d'Hollywood une dizaine de jours seulement après la mort de la reine de la country. Alors pour l'instant, aucun suspect. Il y a plusieurs témoignages rapportés dans la presse américaine. Une femme aurait renversé des bougies avant d'utiliser des morceaux de verre pour rayer la plaque. Il y a un autre individu qui serait parti avec les fleurs. Bon, le Hollywood Historic Trust, chargé d'entretenir les étoiles, a immédiatement lancé son remplacement et dit vouloir ainsi honorer la mémoire de Dolly Parton, qui, la mort de Dolly Parton, continue de provoquer une immense émotion aux US. Le Tennessee veut donner son nom à l'aéroport international de Nashville, la capitale mondiale de la country. Et la chanteuse réserve même un dernier rendez-vous à ses fans, un morceau inédit. My Place in History. Alors, il dort dans une boîte qui est scellée à Dollywood, le parc d'attractions qu'elle avait créé. Interdiction d'ouvrir cette boîte avant le 19 janvier 2046, date à laquelle Dolly Parton aurait eu 100 ans.
Oh, c'est... Merci, Mathieu. Il est 8h. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est une information qu'on vous révèle ce matin sur RMC. 25 ans après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, le terroriste français Zakarias Moussaoui, le seul à avoir été condamné pour sa participation, vous entendrez qu'il demande à purger la fin de sa peine de prison en France. Il est très attendu, c'est ce matin à 9h, que le gouvernement va finalement dévoiler le contenu de son plan d'urgence agricole. Dans un contexte de canicule, la 6e depuis le début de l'année, nous serons en direct de Toulouse où on attend jusqu'à 38 degrés aujourd'hui.
Bientôt 25 ans après les attentats du 11 septembre, l'unique terroriste condamné demande à purger sa peine en France.
Oui, vous vous souvenez certainement de son nom, Zakarias Moussaoui, 58 ans. Aujourd'hui, membre revendiqué d'Al-Qaïda, condamné donc à la prison à vie. C'était en 2006 aux États-Unis. Mathias Tesson, vous êtes le chef du service police-justice à RMC en direct avec nous ce matin. Et vous nous révélez donc qu'il demande à purger la fin de sa peine de prison en France. Pourquoi cette demande ?
Eh bien, il espère ainsi un jour obtenir des conditions de détention peut-être plus favorables sur le territoire français. Rappelons qu'il est incarcéré aux États-Unis dans une prison de très haute sécurité. Il dénonce aujourd'hui des mesures d'isolement sans limite et une limitation drastique de ses contacts humains. L'homme de 58 ans demande aussi le maintien de ses liens familiaux, notamment pour pouvoir voir sa mère qui est en France et dont l'état de santé ne lui permettrait pas de se déplacer jusqu'aux États-Unis. Un transfèrement en France lui laisserait aussi une infime chance d'être libéré un jour.
Tout le monde se pose la question, évidemment, ce matin, est-ce que ça a une chance d'aboutir ?
Alors, cela apparaît aujourd'hui très improbable, même si, sur le principe, cela est possible. En réalité, il faudrait l'accord des deux pays, et c'est vrai qu'on imagine mal, sauf coup de folie, Donald Trump accepter de se débarrasser du seul condamné pour cet attentat responsable de près de 3000 morts aux États-Unis et qui a changé la face du monde. Son avocat en France, maître Romain Ruiz, compte aussi demander la révision de son procès aux États-Unis.
Information RMC, donc signé Mathias Tesson ce matin. Les États-Unis, on en parle, on y reste, rien ne les arrête. Visiblement là-bas, vous savez qu'on est en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. Et alors Donald Trump a trouvé un nouveau moyen de mettre en avant sa politique anti-immigration. Romain, vous allez tout nous expliquer dans un instant. Ces dernières heures, la Maison Blanche a mis en ligne sur son site internet un jeu vidéo qui consiste à attraper des personnes en situation irrégulière.
Oui, c'est un jeu inspiré d'un classique du jeu d'arcade auquel toute une génération a joué. C'est Snake, le principe. Vous dirigez un serpent qui doit manger des points pour grandir sans se mordre la queue ni toucher les murs. Voilà, c'est la même chose, sauf que là, vous n'incarnez pas un serpent, mais Tom Homan, principal conseiller de Donald Trump sur l'immigration. Et vous devez interpeller et rassembler derrière lui le plus de personnages, des personnes immigrées ayant traversé le fleuve Rio Grande à la frontière avec le Mexique afin de les expulser. Le titre du jeu, protéger la frontière de la horde qui arrive. Et ce n'est pas le seul jeu mis en ligne cette nuit par la Maison Blanche. Il y en a un autre qui consiste à construire un mur à la frontière mexicaine sur le principe du célèbre Tetris. Depuis, les critiques pleuvent aux États-Unis, à commencer par les ONG qui dénoncent une déshumanisation des personnes immigrées. Mais la Maison Blanche défend, elle, une initiative qui, je cite, souligne encore davantage le contraste entre une culture du fun et de la gagne et, je cite toujours, la sombre vision socialiste des démocrates pour l'Amérique.
Sur le continent américain, sachez que le Panama réduit à partir d'aujourd'hui le nombre de bateaux pouvant passer dans son célèbre canal pour la deuxième fois seulement de son histoire, la faute à la sécheresse qui a des conséquences vraiment partout sur la planète. Et on est bien placé pour le savoir en France avec cette sécheresse donc qui touche nos cultures. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement va enfin dévoiler son plan d'urgence agricole. On en a beaucoup parlé cette semaine. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, ça aurait dû être hier. Finalement, ce sera tout à l'heure à 9h et on sait que l'attente est grande.
Oui, et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ira elle-même présenter ses mesures en fin de matinée aux agriculteurs sur la foire de Châlons en Champagne. Le gouvernement veut montrer qu'il mesure l'ampleur des difficultés. 90 départements confrontés à des effondrements de la production, insiste Matignon. Un plan destiné à passer l'hiver, avait promis Sébastien Lecornu, et qui devrait comporter des aides pour indemniser les pertes, renflouer la trésorerie des exploitations, financer l'achat de fourrage ou d'engrais, ce qui va nécessiter une enveloppe considérable au-delà du milliard d'euros qu'il faudra financer par de nouvelles coupes budgétaires ailleurs, prévient Matignon. Bercy va procéder à de nouveaux gels et annulations de crédits, d'autant qu'il faudra ensuite travailler un second volet pour relancer la production. Des concertations vont s'ouvrir pour inclure de nouvelles mesures dans le futur budget 2027.
Mais alors la sécheresse, c'est pas prêt de s'arranger avec les nouvelles fortes chaleurs. La nouvelle alerte orange canicule dans 5 départements du Sud. C'est la 6e canicule depuis le début de l'année en France. On attend jusqu'à 38 degrés aujourd'hui à Toulouse. Vous allez l'entendre avec ce charcutier. Dans un instant, ça en fera certainement un nouveau record de chaleur pour un mois de septembre.
C'est juste impressionnant, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas connu des records pareils et on est à la limite de l'insupportable parce que pour nous, pour dormir, pour le travail, pour plein de choses, c'est assez difficile à vivre et à gérer, quoi.
Bon, Météo France l'a confirmé hier, on vient de vivre tout simplement l'été le plus chaud jamais enregistré, l'été le plus chaud de notre histoire. Sur les 92 jours de juin, juillet, août, 83 journées étaient au-dessus des normales de saison. Louis Salé pour RMC. Aujourd'hui, on parle d'un été exceptionnel, mais vous nous dites que si rien ne change, Météo France prévient que dans quelques décennies, eh bien, un été comme ça, finalement, ce sera habituel.
Oui, en 2100, la France aura gagné 4 degrés de plus en raison du réchauffement climatique. Et un été comme celui de 2026 sera considéré comme un été ordinaire. 2026, c'est une carte postale du climat de 2100, aussi bien en termes de température que de sécheresse des sols. Le record de 53 jours de vagues de chaleur sera largement battu. Il y en aura plus de 90 lors des étés les plus chauds. Le risque incendie sera étendu à l'ensemble du territoire et la saison des feux pourrait durer 2 mois supplémentaires. Mais ce tableau apocalyptique n'est pas figé. Une réduction plus rapide des émissions de gaz et effet de serre peut réduire l'intensité de tous ces phénomènes.
C'est un miracle qui semblait presque inimaginable. Au Népal, 10 jours maintenant après la crue dévastatrice, on apprend que les secours ont réussi à extraire, là, cette nuit, 2 ouvriers de chantier qui étaient retenus prisonniers dans un tunnel dans le nord du pays. La France prépare la venue du pape Léon XIV. Ce sera à la fin du mois pendant 4 jours à Paris, Lourdes, Metz également. 15 000 forces de l'ordre seront déployées. C'est ce que dit ce matin le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans le journal La Croix. L'information de la nuit en sport, c'est l'élimination. C'est fini pour Gaël Monfils à l'US Open de tennis, battu au deuxième tour par un jeune Américain cette nuit pour son tout dernier tournoi du Grand Chelem. Vous savez qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison, lui qui est aujourd'hui âgé de 40 ans. Cette question aussi ce matin, le PSG va-t-il gagner son premier match de la saison en championnat ? Paris va jouer ce soir, 21h05. On vivra ça sur RMC contre Monaco, qui est l'équipe en forme de ce début de saison. Contrairement aux Parisiens, donc, qui n'ont toujours pas gagné le moindre match, Valentin Jamin.
Oui, Paris coincé dans la deuxième partie du classement, c'est rare. Et si le PSG ne gagnait toujours pas ce soir, ce serait même une première après 3 matchs en Ligue 1 depuis l'arrivée de Luis Enrique. Mais au club, pas d'inquiétude, disent les recrues Lucas Digne et Mika Götze.
La Ligue 1, c'est un marathon aussi. Et à la fin, il faut faire les comptes, c'est pas après deux journées où il faut déjà faire les comptes.
Je pense pas, il y a de pression. On est très calme et on va juste essayer de gagner. Mais il n'y a pas de pression.
Monaco pourrait quand même prendre 7 points d'avance ce soir et depuis le début de saison sur la scène nationale. Paris a par exemple perdu aussi le trophée des champions à Lens. Mais le PSG a affronté uniquement des adversaires qualifiés en Coupe d'Europe. Alors Luis Enrique est taquin.
Qu'est-ce que tu penses que c'est ? On ne gagne pas, on est dehors de la course à les titres.
L'entraîneur parisien attend aussi que ses 5 recrues s'adaptent.
Ça dépend de beaucoup de facteurs que je ne peux pas contrôler. Il y a beaucoup de choses positives que j'ai vues pendant ce dernier match, mais c'est clair qu'il faut améliorer et que chaque année sera très motivant pour les adversaires de jouer contre nous et très difficile pour nous de continuer à gagner.
Face à une équipe de Monaco qui a battu Paris 2 fois la saison dernière.
Alors avant ça, à 19h, Lyon recevra Auxerre et c'est Lille qui est en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 1-0. C'était hier soir à Toulouse en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. S'ils n'obtiennent pas de hausse de salaire, les policiers menacent de ne pas assurer la sécurité du pape en France à la fin du mois. On sera dans un instant avec le délégué national du syndicat Alliance Police. Il est devant le ministère de l'Intérieur. Il s'apprête à rencontrer le ministre et à tenter de négocier. Donc la menace est-elle sérieuse ? Il nous le dit dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h12 sur RMC. La venue du pape en France à la fin du mois pourra-t-elle avoir lieu? Si vous ne la sécurisez pas, ça ne marchera pas. Johan Maras, bonjour. Vous
Bonjour.
Êtes délégué national du syndicat Alliance Police. Au moment où l'on se parle, vous êtes devant le ministère de l'Intérieur, devant Beauvau. Vous vous apprêtez à rencontrer Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Si le ministre n'accède pas à vos demandes, et notamment de hausse de salaire, vous menacez de perturber la venue du pape en France.
Alors, j'accompagne la délégation, effectivement, qui va rencontrer Laurent Nunez, menée par mon secrétaire général, Fabien Van Emmerich. Nous, aujourd'hui, ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur, mais il le sait, hein, on s'est mobilisé le 30 juin, on lui a demandé des revalorisations salariales, on lui a demandé deux grands chantiers. Le premier, c'est de tenir les engagements de l'État concernant la LOPMI et le protocole qu'on a signé
C'est-à-dire,
en 2022.
Expliquez-nous de quoi il s'agit, la LOPMI.
On a signé un protocole avec le ministère de l'Intérieur en 2022. Ce protocole s'est allé sur 5 ans, entre 2022 et 2027. Il y a encore des mesures de ce protocole qui doivent être débloquées et qui, pour l'instant, ne sont pas budgétisées. Il devait y avoir des ajustements et des corrections dans ce protocole, des collègues notamment qui doivent toucher des primes de voie publique d'investigation qui ont été injustement écartées, des corrections à faire sur des grilles indiciaires. Tout ce bloc-là, les services de M. Nunez savent très bien ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce qui nous
Qu'est-ce
manque, c'est le budget.
Qu'est-ce qui bloque
Le
bah
budget,
oui, j'ai envie
le
de vous
budget.
Dire,
et c'est pour ça, et c'est pour
dire
ça
pour
qu'on
vous
est.
Comme pour les autres.
Et effectivement, sauf que je pense que la police nationale aujourd'hui, dans ce pays, on en a besoin. Les Français ont un besoin de sécurité. Et avoir une bonne police, ça se paye. Et c'est encore ce qu'on va répéter à M. Nunez ce matin. Le deuxième chantier sur lequel on l'attend, c'est la revalorisation de notre prime de risque, la fameuse ISSP qui n'a pas été revalorisée depuis 2019, après les Gilets jaunes.
Depuis les Gilets jaunes, hein. Arthur,
Exactement. Oui,
bonjour Johan, moi j'ai une question. Je comprends bien vos demandes d'augmentation de budget, mais elles sont justifiées par quoi? Est-ce que vos conditions de travail se sont dégradées? Est-ce que le maintien de l'ordre a changé depuis les Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre métier?
Les conditions de travail, évidemment qu'elles sont dégradées. Tout
Pourquoi
est devenu une priorité aujourd'hui. Vous voyez l'état du pays, le narcotrafic est une priorité, les violences intrafamiliales sont une priorité. En fait, on demande toujours plus avec toujours moins à mes collègues sur le terrain. Et encore une fois, avoir une police engagée et qui va répondre à tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, ça se paye.
Ça se paye, dites-vous, et vous avez effectivement menacé donc peut-être de ne pas assurer la sécurité au moment de la venue du pape, d'un mouvement de grève le 15 septembre. Est-ce que cette menace, elle est réelle?
Alors, c'est pas un mouvement de grève, hein. La police nationale n'a pas le droit
de faire
grève.
Oui, parce que vous n'avez pas le droit, effectivement,
de faire grève. On a annoncé une nouvelle mobilisation et une rentrée sociale un peu tonitruante qui démarrera le 15 septembre, mais on s'arrêtera pas au 15 septembre si on n'est pas entendu. Et on s'interdit rien, effectivement. Il va falloir que Laurent Nunez aille chercher du budget pour ses policiers.
Vous travaillez le soir, le week-end, les jours fériés. On en parle depuis le début de la semaine aussi de ces questions de métier où on travaille parfois de manière extrêmement tendue. Est-ce que vos heures sup ont été payées?
Alors les heures sup, c'est un serpent de mer dans la police nationale. Il y a une partie des heures supplémentaires qui, depuis quelques années, sont rémunérées. Elles sont rémunérées déjà pas en fonction de l'indice des collègues. Ça veut dire qu'on leur donne un montant fixe et peu importe le grade du collègue. Ça, c'est un vrai dysfonctionnement. Mais sur l'engagement de mes collègues au quotidien, on parle d'un gardien de la paix aujourd'hui qui est payé 2000 euros. Et comme vous le dites, il travaille la nuit, il travaille les jours fériés, il travaille les week-ends, il est loin de sa famille, il fait des journées de 12 heures. Eh ben, effectivement, aujourd'hui, un policier devrait être payé plus que ça. Et quand on regarde nos voisins européens, les polices sont mieux payées qu'en France.
Merci beaucoup. Merci, Johan Maras. Vous êtes délégué national du syndicat Alliance Police. Merci à vous. Cette rencontre qui aura lieu donc dans les prochaines minutes avec le ministre de l'Intérieur. Je voudrais qu'on parte au 32-16. Il y a Zlatan qui nous appelle. Bonjour, Zlatan. Vous vouliez revenir sur ce fameux radar, le radar du chantier de la porte de Montreuil, machine à cash, dénoncent les associations. Et vous, Zlatan, vous êtes avec nous? Allô? Je crois que Zlatan voulait nous dire qu'il avait réussi à ne pas se faire piéger, mais il voulait alerter effectivement. Donc un le seul qui a réussi à échapper à ce radar fou. Merci en tout cas Zlatan, vous n'hésitez pas à rappeler parce que là on vous entend pas. Il est 8h17, Arnaud de Manchela.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud.
Et bonjour Apolline, bonjour tous les amis, comme vous êtes beaux et rayonnants ce matin.
J'ai toujours peur quand je commence.
Ouais. Mais non, c'est juste pour être sympa. Allez, parlons sport.
Oui.
On vient d'avoir Zlatan, pas au téléphone. Mais on va parler de Lionel Messi.
Ah oui.
Prend sa retraite internationale, celui qu'on surnomme le Jérôme Roten argentin, le Christophe Dugarry de Rosario. Eh ben, il se sent plus d'apporter suffisamment à l'Argentine. Alors, vous savez, il a déclaré, non, et moi, mon truc, c'est le foot, hein, le MMA, j'y connais rien, parce qu'il sait pas faire un étranglement comme ses coéquipiers. Dans un an, vous le verrez devant toutes vos vidéos YouTube. Il te proposera de vendre ta voiture, le Lionel Messi. Vende tu coche, point Argentina, et ce sera super. Tant qu'on est sur RMC, qu'on parle d'RMC, grosse nouvelle média. Gros truc, BFM TV et RMC lancent RMC+, une nouvelle plateforme de streaming. Tremblez, Netflix et Amazon.
Et voilà,
on arrive. RMC+, débarque avec plein d'émissions. Par exemple, LOL, spécial grande gueule. Celui qui laisse l'autre finir sa phrase, eh ben, il sort. J'écoutais à l'instant Bruno Poncet. Excuse-moi Bruno, mais je t'interromps pas quand tu m'interromps. Mais ne m'interromps.
Non mais moi je pense que ça suffit en fait.
Éliminez les deux. Il y aura aussi l'adaptation de Love is Blind avec Estelle Denis. Et bienvenue dans cet épisode de L'amour est aveugle. Et on accueille Raymond.
Estelle, tu veux m'épouser?
Il est chiant Raymond. Il est relou. Hein. Et enfin, grosse exclue de RMC+,
la Casa des Papel. Manu le Chypre, alias Frankfurt. Et sa complice, Edwige Chevrillon, alias Düsseldorf, s'enferme dans la banque centrale de Zurich pour la braquer.
C'est bon ça.
Moumoun, attache à l'employé. Qu'est-ce que tu fais avec les menottes? Tu t'es en train de t'attacher toi.
Prends-moi en otage, Frankfurt. Fais-moi l'amour sur des vieux Deutschmark devant le portrait de Gerhard Schröder.
Il ferme les yeux, Manu.
Il se cache les yeux. Ouais. Il se cache les yeux. Et ben tout ça, ce sera sur RMC+. Abonnez-vous.
J'attends ça.
Abonnez-vous.
Un nouvel épisode de Canicule. Arnaud va toucher le sud de la France.
Aïe. À BFM TV, vous savez, ils ont le gars de la météo qu'ils envoient sur le terrain, là, Kevin Floury. Il a dû devenir livide pendant la conférence de rédaction. Kevin, ce serait pas une nouvelle canicule?
Oh non, pitié! Pas les duplex de 6 heures en plein soleil sans boire.
Kevin, c'est dans ton contrat.
Non!
Vous m'avez déjà obligé à regarder le soleil sans lunettes pendant l'éclipse pour prouver que c'était pas dangereux. Alors que c'était dangereux. Alors au Japon, ils ont trouvé un truc face aux canicules. C'est vrai, hein, c'est vrai de vrai. Des entreprises installent des frigos pour humains. Et les salariés peuvent aller dedans pour se rafraîchir. Ça, faudra gueuler sur BFM Business.
Ah ouais.
C'est typiquement français. On s'est encore fait dépasser. Si Véronique Courgeot avait déposé le brevet en 2006, ben on se serait pas fait piquer le marché par les Japonais. Voilà, un coup de gueule à pousser.
Éric Ciotti a annoncé l'installation de mâts dans les écoles de Nice. Il voulait y faire flotter les drapeaux français.
Oui, alors en fait, c'est pas des mâts, c'est des manches à balai. Mais pour Éric Ciotti, c'est l'antenne de la Tour Eiffel. Non, mais Éric Ciotti, voilà, il regrette l'école d'avant. Mais c'était quoi l'école d'avant? Eh bien, c'est l'occasion d'un petit quiz de fin de semaine. Cette matière a-t-elle été enseignée à l'école française? Arthur Chevalier va se régaler. Attention, c'est parti. Des cours pour s'occuper d'un poulailler.
Oui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, ça existe encore. Karim Bouanran, le maire de Saint-Ouen, propose même des cours pour s'occuper d'un master poulet. Des cours de maniement du fusil à l'école primaire.
Oui.
À partir de 1882, on apprend aux enfants de CM1 à tirer.
Bataillon scolaire, ça s'appelle.
Bataillon scolaire, exactement.
Mais bon,
le ton qui prend quand tu dis.
Mais bon, ça triche. Il y en a un des joueurs, il sait tout.
Quand tu penses qu'aujourd'hui, on leur confisque le portable parce que c'est trop dangereux. Des cours pour nettoyer, balayer, astiquer, casse-là, tout joue pimpant.
Oui.
Cours de Zouk. Bah si, il y avait ça, c'est Zouk Machine qui faisait les programmes. Des cours de travail du fer à la forge.
Non.
Si, il y a eu aussi, ouais.
Ah oui,
l'artisanat. Des cours de distillation. consommation d'alcool.
Non.
Alors non, mais je l'ai quand même fait en cours de chimie, moi.
Ça, oui, oui en primaire. Enfin,
ouais, mais Versailles, c'était Peaky Blinders. Des cours pour apprendre à échapper aux pédophiles.
Non.
Bah, techniquement, faudrait, c'est pas tout à fait faux. Hein. C'est quand même un peu vrai. Hein. C'est dommage qu'on leur entraîne plus à s'exercer au fusil. Oui. C'était une bonne combine aussi. Voilà. Donc, on apprend aux enfants à reconnaître les pédophiles, puis après, on les met dans le périscolaire parisien pour les travaux pratiques. C'est bien foutu. Des cours pour apprendre à parler le poids de Vincent Tonget.
Ah, bah, ça pourrait.
Et oui. Il y a eu.
Vers Poitiers.
Des cours de techno où on t'apprend à organiser une rave party.
Alors, des cours de techno, oui, la rave party, non. Moi, j'ai eu des cours de techno.
Ah, vous l'avez eu le truc où on vous donne un fer à souder pour fabriquer un triangle qui clignote. Moi je l'ai fait aussi. On a distribué des produits chimiques, des fers à souder. Ouais, non, mais Versailles, vous dites, c'était l'enfer. Je sais pas si tout était légal dans ma scolarité, mais en tout cas c'était fun. Allez, bon week-end et à demain.
Excellent week-end.
Quel beau message de rentrée.
Travaillez bien les enfants. Il est 8h23. Attention, ils m'écoutent, ils arrivent à l'école. Non, c'est vraiment super l'école. Merci Arnaud, qu'on retrouve donc en podcast. Et sur scène avec un nouveau spectacle. Vous serez à Rouen, à Caen, au Garric, à Yssingeaux, à Montpellier, à Aix-en-Provence ou à Toulon. Et c'est un spectacle RMC. Il est 8h23, dans un instant la politique, le face-à-face. Mon invité c'est Raphaël Glucksmann, candidat pour cette primaire du Parti Socialiste et de Place Publique, candidat à l'élection présidentielle. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h27.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Dans moins d'une demi-heure, ce matin 9h, rendez-vous donné par le gouvernement pour détailler son plan d'aide aux agriculteurs. Selon les informations de RMC, son montant devrait dépasser le milliard d'euros que le Premier ministre veut trouver en gelant ou en annulant d'autres dépenses dans le budget 2026. Cette information que vous dévoile RMC ce matin, le condamné français des attentats du 11 septembre demande son rapatriement. Zakarias Moussaoui, proche d'Al-Qaïda, veut terminer de purger sa peine de prison à vie en France. Le passage dans le détroit d'Ormuz, presque revenu à la normale. C'est en tout cas ce qu'assure le vice-président américain J.D. Vance, qui refuse de qualifier ce conflit avec l'Iran de guerre, qui refuse aussi de donner une date de fin des hostilités. Un sauvetage à peine croyable au Népal, presque une semaine après les crues meurtrières. Deux ouvriers ont été sortis vivants des décombres ce matin. Ils étaient piégés dans le tunnel d'une centrale hydroélectrique. Le dernier bilan de la catastrophe est de 1280 morts et plus de 5600 disparus. Du tennis, Gaël Monfils fait ses adieux au tournoi du Grand Chelem. Le Français a joué son dernier match au plus haut niveau cette nuit à l'US Open. Défaite rapide en 3-7 contre l'Américain Tienne. Première qualification au troisième tour d'un grand chelem. En revanche, pour Arthur Géa, ça passe aussi pour Benjamin Bonzi face à la tête de série Ignacio Bouzé. En foot, il y a un nouveau leader en Ligue 1 ce matin. C'est Lille qui a ouvert cette troisième journée du championnat par une victoire à l'arraché. Un petit but à zéro face à Toulouse. Deux matchs au programme aujourd'hui. Lyon-Auxerre à 19h et le choc Paris Saint-Germain-Monaco à 21h05. Vous les suivrez évidemment sur RMC. La météo, sixième canicule de l'année. Cinq départements en vigilance orange aujourd'hui. Aude, Hérault, Gard, Ardèche et Drôme. Cet après-midi, plusieurs records de température devraient être battus. De 22 degrés à Brest jusqu'à 37 à Lyon et Bordeaux. Il fera 33 à Marseille, 36 à Toulouse, Clermont ou encore Grenoble. Tout de suite, vous avez rendez-vous comme tous les jours avec le face-à-face sur RMC. Apolline de Malherbe reçoit Raphaël Glucksmann, eurodébuté place publique, mais surtout candidat à la primaire socialiste.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, candidat à cette primaire du Parti Socialiste et de Place Publique. Vous êtes également député européen. Beaucoup de questions à vous poser. Votre programme qui, de jour en jour, se complète sur les retraites, sur les héritages, sur les taxes, sur l'école. Mais au fond, en préparant cette interview, je me demandais si cette rentrée n'était pas en train de devenir la rentrée de François Hollande plutôt que la rentrée de Raphaël Glucksmann. Est-ce que le candidat de la gauche, c'est pas en train de devenir François Hollande ?
Alors écoutez, moi je pense qu'on aura besoin de tout le monde et je suis très content que François Hollande expose ses idées, qu'il développe sa vision du monde. Mais là, nous avons une primaire qui va décider du candidat ou de la candidate de l'espace social-démocrate, de l'espace socialiste et démocrate. Et je compte bien, moi, l'emporter et être ce candidat pour remporter l'élection présidentielle. Parce que je pense que notre espace politique peut gagner cette élection.
Il est dans un autre timing que le vôtre.
Ouais.
On a l'impression que pour lui, cette primaire même n'existe pas, à part le fait qu'il dit qu'il va y voter, puisqu'il est lui-même adhérent. Mais il dit, en fait, la vraie question, elle se posera en décembre. Mmh. Comme si, au fond, vous étiez candidat à une élection pour du beurre.
Mais non, en fait, la stratégie de François Hollande, elle est limpide et elle est parfaitement respectable. Il attend de voir si
si vous
réussis à enclencher une dynamique, mais c'est pareil pour tout le monde, vous savez. Moi, depuis le début, j'essaye de régénérer cet espace politique et de dire une chose simple: j'en ai marre de cette gauche qui joue toujours le coup d'après, qui est habitée par l'esprit de défaite, qui sacrifie ses principes pour des circonscriptions, et je veux, moi, que nous gagnions l'élection présidentielle. Donc en fait, voilà, la responsabilité, elle pèse sur mes épaules. Il faut que j'enclenche cette dynamique, et aujourd'hui, ce qu'on voit, eh bien, c'est que cette dynamique commence. Ça fait une semaine qu'on est en campagne.
C'est-à-dire?
Ben, ça fait une semaine qu'on est en campagne. Les sondages augmentent. Il y a un enthousiasme sur le terrain, des adhésions en masse. Et d'ailleurs, j'en profite ce matin pour m'adresser à vos auditeurs et vos téléspectateurs en leur disant: mais si vous en avez marre de vous plaindre de l'état de la gauche, venez adhérer, emparez-vous de ce scrutin, changez-la. Et on va prendre ensemble le pouvoir pour changer la vie des Françaises et des Français, parce qu'on en a marre de ces 10 années d'injustice et d'impasse du macronisme, et parce qu'on ne veut pas que notre pays soit offert à Madame Le Pen et à l'extrême droite.
Mais vous comprenez que quand on entend François Hollande, qui clairement a un programme, il le développe dans son livre, mais vous inquiétez pas qu'on le fait aussi, mais il est déjà partout. Il est partout, il parle partout, et il est en campagne. Il ouvrira même à partir de lundi un QG de campagne à Paris dans le 11e. Est-ce que ça veut pas dire que votre élection à vous, c'est le brouillon, et que le vrai candidat, il arrive en décembre et qu'il est en train de préparer son décollage?
Écoutez, dans toutes les enquêtes d'opinion, je suis largement devant. J'ai fait un score aux européennes qui a suscité un espoir chez les millions de Françaises et de Français. Et il y a là l'opportunité de résoudre la question de la candidature. Ça s'appelle une primaire. Les adhérents du Parti Socialiste, de Place Publique, et ceux qui voudront nous rejoindre et adhéreront à la plateforme commune, pourront choisir leur candidat. Mais vous savez, la malédiction de cet espace politique, de la gauche démocratique, c'est que nous, on est enfermés dans des questions de personnes et de process, on débat sur le nombre de débats, on débat sur la nature de tel ou tel processus, pendant que les autres font campagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas finalement François Hollande, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on engage la bataille avec Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Édouard Philippe, qui sont nos véritables concurrents dans cette élection. Et donc, à force de ne penser qu'à soi, de se regarder le nombril, la gauche démocratique perd toutes les élections nationales. Moi, je veux mettre fin à cet esprit de
défaite. Si votre argument, Raphaël Glucksmann, c'est de dire: j'ai lancé une grande dynamique au moment des européennes, donc ça va me porter. Yannick Jadot avait fait 14% aux européennes.
Je vous remercie d'évoquer Yannick Jadot, parce qu'ensemble, nous allons mener la révolution écologique.
Vous avez vu ces chiffres, j'imagine que vous les avez analysés. Oui. Il avait fait à peu près le même score que vous aux européennes, il s'est totalement écroulé au présidentiel. Donc là, la dynamique des européennes, c'est pas la même.
C'est pas la dynamique des européennes. Ce qu'on est en train de construire, c'est une équipe pour gouverner le pays, avec Yannick Jadot, avec Boris Vallaud, avec Carole Delga, avec Laurence Rossignol, avec Nicolas Mayer-Rossignol, avec Aurore Laluc. En fait, nous sommes en train de construire l'équipe qui va d'abord refonder la gauche sur des bases claires et qui ensuite va gouverner ce pays. Et moi, je suis convaincu que les Françaises et les Français en majorité ne voudront pas reconduire un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron pour reproduire les mêmes politiques avec les mêmes gens, pour que vous soyez obsédé par une question, c'est: quel est le poste de Monsieur Darmanin? Alors, est-ce qu'il sera Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères? On en a marre. Et donc, il faut tourner cette page. Mais pour tourner cette page, il faut une offre politique nouvelle. Et c'est ce que nous allons proposer, avec des changements radicaux.
Donc, pour vous, l'écologie, ça a été votre premier déplacement. C'est extrêmement important. Vous avez entendu ce matin 1 milliard d'euros qui vont être débloqués pour aider les agriculteurs. Vous auriez, vous aussi, débloqué cette aide-là, si vous étiez président?
La sécheresse, il faut une aide d'urgence pour nos agriculteurs. On a besoin de nos agriculteurs. On a besoin qu'en France, il y ait encore des paysans. On a besoin de y compris pour mener à bien la transformation écologique. Ils seront l'avant-garde de cette transformation, les agriculteurs. Mais moi, ce que je note, c'est que dans le même temps, eh bien, on sabote le fonds qui était destiné à la rénovation thermique des écoles, à l'adaptation des écoles à la canicule. On a eu des enfants qui ont littéralement cuit dans leur salle de classe.
Et on est à nouveau dans une alerte canicule aujourd'hui.
Voilà. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, c'est que le gouvernement diminue de 60 millions le fonds qui était destiné à adapter nos classes aux canicules et que donc l'année prochaine, eh bien, on se retrouvera exactement dans la même situation que cette année. Et cette impréparation permanente face au réchauffement climatique, eh bien, c'est un scandale. Ça met en danger nos enfants. Ça casse la continuité du service public. Ça oblige les écoles à fermer. Ça empêche les enfants d'apprendre. Et le résultat de toute cette impréparation, c'est que la France sombre dans le chaos à chaque événement climatique. Eh bien, moi, je mettrai fin à cela. Nous lancerons la révolution écologique, l'adaptation de la France au changement climatique et nous serons prêts. La France sera gouvernée.
Vous les adapterez comment? Est-ce que vous accepterez l'idée de clim dans les écoles?
Il faut de la clim.
Okay.
Nous, on n'a aucun problème avec l'existence de la clim. Il faut dans l'urgence de la clim, mais ça ne suffit pas. La clim n'est pas la réponse au réchauffement climatique. Donc, il faut un plan de rénovation des écoles. Vous savez que 30% des écoles françaises, eh bien, sont délabrées ou insalubres. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est un plan de bâtisseur d'écoles. On a en gros 4000 écoles à rénover chaque année. Ça suppose des investissements. Les collectivités locales ne pourront pas le faire seules.
Donc
et aujourd'hui, et oui, avec une participation de l'État. Et aujourd'hui, le gouvernement envoie le signal qu'on a déjà tourné la page de la canicule. Mais c'est normal, parce que depuis 10 ans, ils gouvernent comme ça. Ils font des séquences, ils arrivent, un ton martial. Nous ferons face à la canicule. Et 10 jours après, ils ont oublié. Et ils sabotent les budgets qu'eux-mêmes ont annoncés.
Raphaël Glucksmann, sur ce plan pour l'agriculture, il y a deux questions en particulier sur lesquelles je voudrais vous interroger. Vous avez dit on aura besoin d'eux aussi pour s'adapter au réchauffement climatique. La question du stockage de l'eau. Édouard Philippe est favorable. Il dit oui, il va falloir stocker l'eau. Les Espagnols le font. Et en France, il y a un débat là-dessus. Vous êtes pour ou vous êtes contre?
Moi, je suis pour le stockage de l'eau et simplement les méga-bassines. Eh bien, ce qu'il faut, c'est un moratoire sur ces méga-bassines pour une raison simple. C'est qu'il faut de la concertation dans l'utilisation commune de l'eau. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est des parlements de l'eau. Que tous les acteurs d'un territoire puissent avoir leur mot à dire. Pour pas que l'eau soit captée par quelques
donc,
exploitations.
Vous voulez bien qu'on la stocke?
Non, mais ce que je veux dire...
Ça, pardon, je veux essayer de comprendre. La méga-bassine, ok.
Pas les méga-bassines. Les rétentions d'eau, puisque c'est ça quand vous dites on stocke. Bien sûr qu'il faut des rétentions d'eau. Bien sûr que sur certains territoires c'est nécessaire. Mais la méga bassine qui irrigue seulement quelques exploitations et qui prive les autres agriculteurs de l'accès à l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une gestion démocratique de l'eau. Mais je vais vous dire une chose très simple. Pourquoi les agriculteurs seront à l'avant-garde de la transformation écologique? Mais parce que le premier geste que devra faire un président de la République quand il sera élu en mai prochain, c'est d'aller renégocier la politique agricole commune. Parce que aujourd'hui, on a une politique agricole commune qui bénéficie à 10% des agriculteurs français, qui bénéficie aux gros exploitants de la Beauce, mais qui ne bénéficie absolument pas à tous ces agriculteurs
Raphaël
qui aujourd'hui
une question
gagnent
aussi
un salaire de misère pour travailler 70 heures par semaine. Et donc nous changerons cela et nous organiserons la rémunération des services écologiques rendus à la collectivité. Par exemple, quand vous avez une friche, moi dans les régions viticoles, vous avez de l'arrachage, ça se transforme en friche. La friche, c'est ce qui va déclencher, démultiplier les risques d'incendie. Eh bien, les agriculteurs qui s'occuperont de ces friches seront rémunérés. Et ça, on a le budget pour ça. Et qui bloque aujourd'hui à Bruxelles ce genre d'évolution? Qui bloque? Eh bien, la France, malheureusement. Je dois vous le dire, la France d'Emmanuel Macron. Et les autres Européens sont prêts à le faire. Nous le ferons.
Raphaël Glucksmann, une question. Il y a eu le stockage de l'eau. Je voudrais vous poser aussi la question des prix. Hier, le patron de la FNSEA était à mon micro. Ce matin, j'ai reçu le patron de Bonduel et Casgrain sur RMC. Et les deux, au fond, tiennent le même discours. Ils disent, on a trop tiré vers le bas les prix de l'alimentaire. Et ça n'est plus tenable. Il va falloir accepter une inflation sur l'alimentaire. Alors, ça représenterait quelques centimes par boîte de conserve de petits pois. Mais il dit c'est soit ça, soit l'agriculture en France meurt. Est-ce que, oui, il faut accepter une inflation sur les prix de l'alimentaire agricole?
Ce qu'il faut, c'est que les producteurs soient justement rémunérés.
Donc ça veut dire quand même qu'au bout de la chaîne, on va payer plus cher sa brique de lait et sa boîte de conserve.
Qu'est-ce qui fabrique le prix, Apolline de Malherbe? Ce sont les intermédiaires, ce sont les marges qui sont dégagées. Et donc on a... là, un effort majeur à faire.
Oui, mais
de
à un
transparence,
moment ou à un autre, c'est ce qu'ils vous disent. Ça va quand même finir par remonter.
Oui, mais il y en a qui font beaucoup, beaucoup d'argent en ce moment. Et ce ne sont pas les producteurs.
Donc vous parlez quoi,
ce ne sont pas les agriculteurs.
Vous parlez des marques, vous parlez
ce sont les intermédiaires, les marques, l'agro-industrie. C'est là où on doit faire pression pour baisser les prix. Et en réalité, aujourd'hui, on est dans un marché qui est totalement opaque. Eh bien, nous allons le rendre transparent. Et je vais vous dire une chose.
On devra savoir quelle part revient vraiment à l'agriculteur dans une barquette de jambon ou dans une boîte de conserve.
Et les consommateurs seront surpris de voir à quel point nous rémunérons mal nos producteurs, nos agriculteurs. Et moi, ce que je veux dire, une chose très simple, la France a besoin de ses agriculteurs. On a fait, grâce à eux, une transformation majeure pendant 40 ans. Eh bien, cette transformation, c'était de mettre fin à la disette, d'avoir une agriculture qui produisait beaucoup.
Là
désormais, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour mener à bien cette transformation écologique.
Celui qui dit ça, Raphaël Glucksmann, hier, c'est le représentant des agriculteurs. C'est le premier syndicat agricole.
Vous savez.
Il va falloir augmenter les prix.
Mais les positions défendues par la direction de la FNSEA, je suis désolé, sont souvent en contradiction avec les intérêts des éleveurs, avec les intérêts des petits agriculteurs, des petits exploitants qui, eux, ne s'en sortent pas.
Donc quand il dit qu'il faut augmenter les prix, vous dites que c'est contre les agriculteurs qu'il le dit?
Non. Qu'on paye au juste prix les producteurs, oui, mais pourquoi ils ne s'attaquent pas dans ce cas-là aux marges qui se dégagent entre le producteur et le consommateur? Et c'est là qu'il va falloir trouver des marges. Mais je vais vous expliquer. Aujourd'hui, eh bien, vous avez des représentants du monde agricole qui, à Bruxelles, luttent d'arrache-pied pour empêcher toute réforme de la politique agricole commune. Par exemple, savez-vous que la France est un des seuls pays européens qui n'a pas de plafond sur les aides? C'est-à-dire que vous avez des grands agro-industriels qui bénéficient de millions d'euros de la politique agricole commune pendant que vous avez des petits exploitants qui n'en bénéficient pas. Eh bien moi je vais vous dire, dans tous les autres pays européens, il y a des plafonds. Ça veut dire qu'on a une répartition égalitaire, équitable de ces aides. Et ça permet à quoi? Ça permet aux petits exploitants, aux petits agriculteurs, ceux qui galèrent aujourd'hui, eh bien de s'en sortir. Et moi ce que je veux, c'est une politique agricole juste et écologique.
Raphaël Glucksmann, cette semaine, la question du voile est revenue à l'ordre du jour. D'abord parce que le RN a annoncé qu'il voudrait l'interdire. Et puis hier, il y a eu cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui dit avoir commis une erreur lorsque, initialement, il estimait que le voile était, je cite, une soumission de la femme et un signe du patriarcat. Aujourd'hui, à l'inverse, il estime que c'est une forme de liberté de la femme. Quelle gauche êtes-vous ?
Moi, je suis une gauche laïque, républicaine. Mais je tiens à vous dire que si le sujet est revenu au cœur du débat public, c'est parce que le Rassemblement National propose quoi ? Il propose d'envoyer les policiers français faire la chasse aux foulards dans les rues de France. C'est ça ? On en est là, sérieusement ? Et donc, en relançant ce débat-là, le Rassemblement National sait très bien ce qu'il fait. Il veut relancer les fièvres identitaires. Eh bien, moi, je ne le permettrai pas. Et je ne veux pas que la politique française se résume à un débat entre fièvres identitaires. Et je vais vous dire une chose simple. Ce que propose Madame Le Pen, c'est la négation même de la laïcité. La laïcité, c'est pas la police des vêtements. C'est pas interdire un vêtement dans l'espace public. La laïcité, c'est protéger des sanctuaires comme l'école. C'est la loi de 2004 à laquelle je suis foncièrement favorable, qui protège l'école du prosélytisme religieux. La laïcité, c'est aussi la liberté du choix. Et donc, quand une femme est contrainte, eh bien, il faut que la puissance publique intervienne.
Comment on sait si elle est contrainte ou pas?
Mais parce que ce qu'il faut, justement, c'est appliquer la loi de 1905. Et dans la loi de 1905, il y a des enquêtes qui sont possibles et des sanctions qui sont possibles quand il y a une contrainte. Maintenant, je vais vous expliquer une chose simple. Si la France se transforme dans un pays où la police va arrêter des femmes parce qu'elles portent un voile ou parce qu'elles portent un foulard, eh bien, comment on va ensuite se regarder dans les yeux? Ça veut dire qu'on aura nos policiers qui feront ça. Et comment ils feront la distinction? Comment ils feront la distinction entre le foulard d'une juive orthodoxe et le fichu porté sur la tête par une femme qui est en chimiothérapie et un voile islamique? Ils le feront au faciès. Donc en fait, vous aurez une situation où vous avez une tête d'arabe, soyons cash, vous êtes arrêté et on vous met une amende. Mais c'est quoi ce pays? C'est le pays qu'on veut? C'est le pays qu'on veut, mais moi j'appelle vraiment les auditeurs à réfléchir. Est-ce qu'on veut que la police française soit chargée de faire ce genre de travail? Est-ce que c'est ça la République? Est-ce que c'est ça la France? Moi, je pense que la France, ce n'est absolument pas ça.
Vous avez parlé, cela dit, de la question de la liberté de choix ou non. La question s'était posée aussi d'interdire le voile sur les jeunes filles ou sur les fillettes. Est-ce que ça, c'est une question que vous vous posez?
Mais regardez, si vous interdisez le voile en dessous de 15 ans, c'est ça qu'avait proposé
Gabriel Attal.
Donc vous allez avoir des policiers qui vont contrôler l'ensemble des filles qui portent un voile sur la tête pour savoir quel âge elles ont. Sérieusement ? mais enfin, on veut pas d'un pays qui ressemble à ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est extrêmement laïque qui vous parle. Mais moi, je ne veux pas que ma police, que la police de la France soit. Et par ailleurs, j'aimerais poser une question à Madame Le Pen. Latifa Inziatem, dont le fils a été assassiné par Mohamed Merah, par
elle
le terroriste Mohamed Merah, qui porte le foulard. Elle va envoyer la police pour mettre une amende à Latifa Inziatem. Sérieusement? Elle qui lutte contre la radicalisation en permanence, qui défend les principes de la République partout, qui va dans tous les quartiers du pays pour expliquer qu'il faut être républicain.
Et dont le fils a été assassiné par Mohamed Merah. Raphaël Glucksmann, il semble que vous ayez peur de débattre.
Alors pardon ?
C'est ce que disent vos concurrents au sein de la primaire. C'est ce que disait Ségolène Royal à ce même micro il y a deux jours.
Il semble que je sors d'un débat avec Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean-Luc
Mélenchon.
Mais
au sein de la primaire socialiste, accuse de refuser de débattre et de ne vouloir qu'un seul débat là où les autres en veulent trois.
Moi, ce que je veux, c'est que les débats qu'on a, le débat qu'on a, et le maximum d'exposition. Et donc, quand France Télévisions et France Inter font une offre commune en prime time pour dire, voilà ce qu'on vous propose, vous avez accès à des millions de Françaises et de Français, j'accepte cette offre. Ensuite, s'il y a un accord entre les chaînes, s'il n'y a pas d'exclusivité, moi, j'ai pas de problème à faire des débats. C'est pas la question, on verra, on négociera. J'ai aucun problème à débattre. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette primaire, ça doit être l'occasion d'aller parler aussi aux militantes et aux militants.
Mais ça veut aussi dire que vous êtes ouvert à l'idée qu'il y ait plusieurs débats ?
Mais moi, je suis ouvert aux idées qui donnent le plus d'impact à cette primaire.
Plus il y a de débats, plus il y a d'impact.
Non, c'est pas vrai. Si on perd un débat en prime time sur France Télévisions, je suis désolé, on en touchera moins de monde. J'ai un immense respect.
Mais pourquoi ? Parce que France Télévisions voudrait pas partager,
parce que
voudrait pas qu'il y en ait d'autres.
L'offre
le problème, c'est France Télévisions, alors.
L'offre qu'ils font, c'est l'offre.
C'est parfaitement logique. Vous venez débattre chez nous. Seulement s'il y en a qu'un.
Venez d'abord débattre chez nous. Bref, tout ça, honnêtement, on va pas passer des années à parler des débats.
Alors,
maintenant, je vais vous dire une
chose. Ils en ont tous un argument.
Ils vont faire un argument de tout. Moi, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Ils vont faire un argument de tout. Mais, ce qui compte, c'est ce que nous proposons aux Françaises et aux Français. Et ce qui compte, c'est la grande bataille qu'on doit mener contre l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir.
Ce qui compte, c'est le débat pour
sortir la gauche de l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon.
Justement sur
ce qui compte, c'est nos lignes stratégiques. Ce qui compte, c'est notre capacité à mobiliser pour cette primaire. Ce qui compte, c'est qu'on soit des dizaines de milliers de gens qui nous rejoignent pour remporter cette élection présidentielle.
Votre équipe,
c'est l'élection présidentielle parce que je pense que nous allons la gagner.
Votre équipe a donné comme argument à nos confrères de l'opinion qu'il n'y aurait qu'un seul débat parce que quand on est de gauche, je cite, on débat sur le service public. Donc le service public est de gauche.
Non, pas du tout.
Quand on est de gauche, on débat sur le service public.
Non.
Elle a été prononcée par votre directeur de la communication auprès
de
mes confrères de l'opinion.
Quand on est de gauche, on doit faire un débat sur le service public. Eh bien oui, vous savez, le service public est attaqué aujourd'hui. En permanence, il y a eu une commission Charles Alloncle, il y a une attaque permanente de l'extrême droite contre le service public. Et oui, nous défendons le service public d'audiovisuel.
Est-ce que Charles Sapin, ancien journaliste du Figaro, désormais à Valeurs Actuelles, peut faire son éditorial?
Alors, je vais y venir, je vais répondre à vos questions parce que je réponds à toutes les questions. Mais moi, j'ai aucun problème pour débattre aussi sur des chaînes privées. L'enjeu, c'est quoi? C'est
que vous serez le bienvenu.
Je vous remercie. D'ailleurs, je suis là et je suis très bien accueilli. Le café était bon. Mais, la vérité, c'est que il faut un débat sur les chaînes publiques. Et il faut défendre l'audiovisuel public.
Mais personne ne dit qu'il n'en faut pas. La question, c'est cette phrase. Quand on est de gauche, on débat sur le service public. Et je vous pose la question, évidemment, parce que vous connaissez le contexte. La Société des journalistes de France Inter a déposé un préavis de grève pour les 13 et 14 septembre prochains pour protester contre le fait qu'il y aura un éditorial de 2 minutes 30 le week-end tenu par un ancien journaliste du Figaro, aujourd'hui à Valeurs Actuelles, Charles Sapin. Est-ce qu'il faut pouvoir avoir des éditorialistes de droite sur le service public ?
Oui. Et il faut des éditorialistes de droite sur le service public. Je pense qu'il y en a plein, d'ailleurs. J'écoute le service public et je peux vous dire que je suis pas toujours d'accord avec leurs éditorialistes. Mais par ailleurs, moi, je ne commente pas les choix éditoriaux du service public. Parce que le service public est indépendant. Hein. Il n'est pas à nos ordres. Donc, on n'a pas à commenter en permanence leurs choix éditoriaux.
Mais est-ce que vous comprenez les journalistes de France Inter qui appellent à la grève pour protester contre la présence de Charles Sapin?
Moi, je comprends que... C'est Valeurs Actuelles, c'est un outil idéologique, hein, c'est un journal idéologique qui participe à l'offensive de l'extrême droite, notamment d'ailleurs contre le service public. Hein, ils font une sur trois, c'est contre le service public de l'audiovisuel. Mais moi, je ne commente pas les choix du service public de l'audiovisuel. Je veux dire, c'est pas un service qui est aux ordres des politiques. Donc ensuite, c'est une histoire interne.
Mais c'est en train de devenir une question politique. Vous le savez bien.
Ouais, mais la question politique, c'est qu'est-ce qu'on fait du service public de l'audiovisuel ? Est-ce qu'on le privatise comme le veut le Rassemblement national ?
Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a une colonisation du service public par les fachos.
Non, mais écoutez, il n'y a pas une colonisation du service public par les fachos. C'est pas vrai. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bataille culturelle qui est menée par l'extrême droite, dont Valeurs Actuelles est un des vecteurs principaux.
Je vous pose la question, est-ce que Charles Sapin peut faire un édito sur France Inter ?
Mais je ne décide pas qui fait des
éditos. Mais je ne vous dis pas de décider. Je vous dis que quand Jean-Luc Mélenchon, quand les autres en font un sujet politique.
Je ne commente pas les décisions de justice et je ne commente pas non plus les choix éditoriaux du service public de l'audiovisuel. C'est totalement vieux jeu, je vous l'accorde. C'est à l'ère du tweet
non,
permanent.
Non, mais je suis un peu étonné parce que comme votre équipe déclare jeu. Quand on est de gauche, on débat sur le service mais public, ça veut dire que vous avez un avis sur le service public.
Bien sûr que j'ai un avis sur le service public. Il faut défendre le service public contre ceux qui veulent le privatiser. C'est extrêmement
important
pour notre démocratie.
Mais est-ce qu'il faut le défendre contre les fachos, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ?
Mais après, ce que fait le service public, l'organisation de sa grille, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas rédacteur en chef de France Inter. Je suis pas directeur de l'information à France 2. C'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est je veux qu'en France, il y ait un service public. Et je veux qu'en France, il y ait une école publique. Et je veux qu'en France, on défende les services publics. C'est quand même pas compliqué. Et je vois qu'il y a une offensive aujourd'hui pour les détruire. Pour les détruire et pour les privatiser. Et que ça, c'est extrêmement dangereux.
C'est
et
dans le programme du Rassemblement National. Hein.
Ben oui, c'est dans le programme du Rassemblement National. Et c'est l'offensive, elle est coordonnée entre des médias qui appartiennent à Monsieur Bolloré, nommons-le, qui a des relais à l'Assemblée nationale, et c'est dans le projet de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen gagne, il n'y a plus de service public de l'audiovisuel. Eh bien, on peut penser comme ça, ah, très bien, on fera des économies. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saper la République. Et c'est ça son programme. En réalité, c'est quand même pas compliqué. Moi, je ne suis pas directeur des programmes du service public. Par contre, je suis un citoyen et un candidat à la présidence qui vous explique que moi, je défendrai le service public de l'audiovisuel contre les offensives qu'il vise.
Voilà, ça c'est de la politique. Raphaël Glucksmann, candidat à l'élection présidentielle et des députés européens, place publique. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h51 sur RMC et BFM TV. C'est vendredi, nous on se retrouve lundi matin, 6h50. Restez bien sur RMC. On poursuit avec les grandes gueules. Qui est autour de la table, Alain Marchal ?
Eh bien, les GG, ce sera avec Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. Nous serons avec Sandrine Pégan, l'avocate, entre autres grandes gueules. Et avec Sarah Knafo, qui vient présenter le casse du siècle sur aujourd'hui le gaspillage de l'argent public.